J'ai gagné mon premier gros million quand j'avais 27-28 ans. 2-3 ans après, il n'y avait plus rien, parce que je m'amusais. Et puis après, j'ai vu comment il fallait vite le refaire et cumuler et multiplier. Aujourd'hui, si quelqu'un ne sait pas faire de l'argent, alors c'est question mindset. On est tous dans des pays riches, donc finalement, on peut arriver à faire et créer de l'argent très vite. Il y a eu des moments. Il y a eu 2017, j'ai voulu tout arrêter. 2017, il y a eu un moment où... tu sais, parfois, même, tu te dis, bah tiens, pourquoi je le fais encore ?
Yes, salut Yannick, j'espère que tu vas bien.
Salut,
merci pour avoir accepté justement mon invitation dans ce podcast du coup. Juste avant de commencer, moi les podcasts, j'aime toujours bien expliquer en fait où est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, pour poser un petit peu le décor, pour poser les bases. Et alors après, bah, on enchaîne en expliquant justement ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant justement. Donc pour déjà contextualiser le truc, toi tu es dans l'immobilier, on va dire voilà, Yannick Callens, c'est souvent, on voit souvent Yannick Callens immobilier. Et nous en fait, on avait déjà échangé pas mal de fois sur Instagram ensemble dans le passé, donc... Tu m'envoyais des messages, t'envoyais des messages, on n'arrivait jamais à se voir.
On se croisait.
On n'arrivait jamais à se voir au même moment, au même endroit. On se croisait aux mêmes endroits à Marbella, mais avec quelques heures de décalage ou un jour ou deux de décalage. Et là, justement, il y a même pas 10 jours, je crois, on s'est retrouvés tous les deux au même moment à Marbella. Toi, tu étais là que pour 24 heures pour des visites justement de biens immobiliers. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va aller manger un bout ensemble, on va se rencontrer pour la première fois en vrai. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté pendant, je pense, facilement 3 heures. C'est passé assez vite d'ailleurs parce que c'était vraiment intéressant. Justement, moi ici, je suis en Belgique pour 4 jours avant de repartir aux Émirats. Et je t'ai dit, est-ce que tu es en même temps que moi en Belgique? Si tu es là, on se fait d'office un podcast parce que c'était vraiment... Enfin, je sentais qu'il y a des bonnes énergies, c'était intéressant à partager ça aux gens. Tu étais justement là. Donc, tu es là aujourd'hui, justement, chez moi, dans mes bureaux ici pour tourner ce podcast. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est tous les deux Belges. On a pas mal, je pense, de connaissances en commun aussi, comme la Belgique.
De plus en plus. Enfin, on constate que de plus en plus, on voit les mêmes personnes finalement.
Voilà, exactement. Déjà, de un, parce que la Belgique, c'est petit. Notre métier aussi fait que, on a pas mal de personnes en commun, même avec la famille, etc. On est occupé d'en discuter juste avant, donc c'est assez marrant. Et donc, moi, j'ai vraiment voulu t'interviewer aujourd'hui, en fait, pour parler de ton parcours. Parce que, comme j'ai dit, quand on s'est rencontrés la fois passée, je savais que tu étais dans l'immobilier, que tu faisais des choses intéressantes. Mais je te connaissais pas non plus que ça. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler, j'ai tout de suite senti que, le mec, il est intéressant, pas que business, même d'un point de vue humain, d'un point de vue développement personnel. Les réflexions que tu avais, c'était des réflexions que j'ai trouvées très poussées. Et moi, j'adore rentrer dans des discussions très profondes, mais surtout des sujets, en fait, pas seulement business, mais que ce soit d'un point de vue même, on avait parlé couple, je me souviens, des visions, des plans sur 5 ans, etc., qu'on avait parlé. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, donc je voulais t'interviewer aujourd'hui. Mais avant de commencer justement à te poser des questions sur toi, ton parcours, plutôt des questions, plutôt développement personnel, etc., est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, quel âge as-tu, d'où tu viens, et qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi.
Voilà, donc merci pour l'invitation. Alors, maintenant, je suis à 100% en immo. Ça n'a pas toujours été comme ça. Comment ça se fait que je suis arrivé à l'immobilier? C'est qu'à la base, mes études, c'était plutôt comptabilité, fiscalité. Et j'ai commencé à travailler dans des banques. J'étais banquier. Et à ce moment-là, je me suis dit, en travaillant et en voyant ce qui se passait, ce n'est pas 100% mes valeurs. Donc, à un moment, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire carrière quelque part. Et pour moi, ça a été toujours dans des banques, dans des grandes entreprises, parce que tu pouvais monter étape par étape. J'ai commencé à conseiller des clients. Et donc là, ce que j'ai constaté, c'est que finalement, je travaillais sur des choses où ce n'était pas 100% tangible. Et donc, bon, moi, j'ai 41 ans. Ça fait quand même presque 20 ans que je travaille maintenant, après l'UNIF. Et j'ai déjà vu quelques crises, 2008, ouais. 2011, il n'y a pas si longtemps que ça, encore une. Et finalement, je me suis toujours dit, mais Yannick, dans quoi est-ce que tu peux travailler où les gens auront toujours besoin de ça, où tu es dans la sécurité, parce que moi, mon besoin de sécurité était énorme, et l'est toujours.
Okay.
C'est-à-dire que tu vas voir qu'à un moment, il y a des feelings où que tu commences ou que tu as déjà plusieurs millions, il y a certains besoins qui resteront. Moi, mon besoin de sécurité est énorme et je l'ai trouvé dans l'immobilier.
Okay,
J'ai commencé en tant que banquier. J'ai après travaillé dans un département qui était immobilier de la banque. Et finalement, je me suis mis à mon compte. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Et après, j'ai commencé tout en bas de l'échelle dans l'immobilier, donc par aider les gens. Puis je suis devenu agent immobilier, puis j'ai fait de la rénovation de mes biens. Après, j'ai fait de la construction neuve aussi. Et finalement, après, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que tu peux faire comme dossier dans l'immobilier pour aller très vite, plus facile, avec moins de risques. Et je me suis toujours posé cette question, tout le temps. Comment est-ce que je peux améliorer le processus? Comment je peux améliorer le processus? Et c'est vraiment à ça que je suis arrivé aujourd'hui.
Ok, ouais.
Donc, aller très vite pour faire des montants assez hauts, mais toujours bien calculés.
Ouais. On en reparlera après, parce que c'est vrai que toi, je pense que tu as une stratégie qui est assez particulière, justement, dans l'immobilier aujourd'hui. Hein. Mais du coup, moi, la première question, justement, que j'ai par rapport à ça, c'est, si je comprends bien, donc toi, tu n'étais pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs au début, comme tu as commencé à faire des études, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que tu avais ça en tête dès le début ou c'est seulement après?
Non, c'est venu après.
Venu après, donc ce n'était pas du tout quelque chose de prévu de base, que tu voulais devenir entrepreneur. Toi, ton but, c'était de monter dans la hiérarchie du travail en tant que banquier, etc., quoi, si je comprends bien.
Banquier ou peut-être dans une autre entreprise ou avant, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça change énormément. Avant, et ça vient de mon éducation, de ma famille, de mes parents, avant, c'était employé est égal sécurité ou salaire est égal sécurité. Aujourd'hui, on voit bien que tout évolue énormément et très, très vite. Et je peux même te dire que le jour où je me suis lancé en disant « je donne ma démission pour me lancer à mon compte », si j'avais écouté ma famille, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Donc à un moment, bon, y a l'entourage qui fait que ça peut être motivant ou ça peut être aussi peut-être un frein. Et souvent, ce sont peut-être même les personnes les plus proches de ton entourage, mais qui t'aiment, qui veulent prendre soin de toi, qui vont peut-être avoir plus aussi ce besoin de sécurité, dire mais tiens, fais quand même attention. Et j'ai eu deux trucs. Moi, c'était surtout se lancer dans l'entrepreneuriat. Et deux, maintenant, ça va déjà mieux, je trouve. Mais avant, l'immobilier avait aussi une connotation un peu monde de requins et tout ça, fais attention.
Ouais.
Or que c'était au tout début, donc je ne savais pas du tout. Et finalement, j'ai sauté le pas et je le regrette vraiment pas.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis avec la famille. C'est toujours un petit peu comme ça. Quand les gens t'aiment justement et que, tu vas vraiment faire quelque chose qui va à contre-courant, où les gens n'ont pas l'habitude, bah, ils vont te dire de ne pas le faire. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais au contraire parce qu'ils t'aiment beaucoup et c'est pour ta sécurité à toi.
Voilà.
Moi, c'est arrivé aussi avec ma famille quand je m'étais lancé, quand j'avais lancé ma première boîte, parce que j'avais quitté mes études. C'est surtout ne le fais pas, tu vas peut-être perdre beaucoup d'argent, tu vas peut-être devoir retourner à l'école après, tu vas perdre du temps. Et finalement, bah, une fois que tu sens le feeling, il vaut mieux écouter juste ta voix intérieure et faire abstraction de ce qu'il y a comme bruit extérieur. Et c'est comme ça souvent que tu atteins tes objectifs et que tu arrives justement à voir des choses que les autres n'ont pas parce que justement tu as le courage de le faire et tu prends ton courage à deux mains, quoi.
Donc, ça me fait penser aussi à mon papa, il s'est mis en tant qu'entrepreneur, mais très très tard. Enfin, tard. La seule chose qu'il m'avait dit, et c'est ce qui m'a marqué énormément, c'était si j'avais su, je l'aurais fait 10 ans plus tôt.
Ouais.
Et ça, quand j'étais petit, je me suis dit pourquoi il me dit ça? Et c'est une phrase qui m'est restée tout le temps. Si j'avais su, je l'aurais fait 10 ans plus tôt. Mm-hmm. Pourquoi que tu te lances à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vas quand même avoir des problèmes à régler. Et si tu peux les régler le plus vite possible, c'est déjà un pas de fait.
Ouais.
Tu vois, parce qu'on passe tous par des choses qui sont plus difficiles. On trouve une solution, mais au plus vite tu trouves la solution, au plus vite tu peux aller faire des choses plus grandes au plus vite.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois... Comment expliquer? Quand tu as l'habitude de faire les choses, aujourd'hui, en fait, rester justement dans l'inaction et ne pas faire la chose, ça va me frustrer au plus haut point parce que je sais qu'au plus vite j'avance, au plus vite je vais faire des erreurs, au plus vite je vais apprendre aussi et au moins la machine avance. Parce que si tu vois un objectif qui est là-bas mais que tu ne fais rien pour mettre des choses en place et pour l'atteindre, pour moi, il n'y a rien de plus frustrant aujourd'hui parce que tu sais en fait que tout est possible en fait, à partir du moment où tu as réalisé quelques petites choses, mais tu te dis si j'ai réussi à faire ça, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose de beaucoup plus grand? Et donc ne rien faire, il n'y a rien de pire pour moi. Aujourd'hui, je suis toujours obligé d'avancer aussi parce que sinon tu t'ennuies, tu te sens frustré, tu te dis vu que c'est possible, pourquoi est-ce que je le fais pas, quoi. Donc c'est intéressant à ce niveau là mais du coup, est-ce que tu peux revenir justement sur ton parcours? Tu t'es lancé dans l'immobilier. Moi, la question que j'ai, c'est comment est-ce que tu te lances dans l'immobilier en partant de zéro, où t'as pas finalement tu vois, plein d'argent de côté, parce que souvent, on a souvent ça en tête, c'est pour faire de l'immobilier, il faut déjà avoir des millions, des centaines de milliers d'euros de côté. Comment est-ce que tu fais en partant finalement, pas dire pratiquement de zéro, parce que tu avais déjà un salaire, tu travaillais, etc. Mais comment tu fais pour te lancer dans l'immobilier finalement, pratiquement en partant de zéro avec du cash flow de côté, quoi,
même,
tu vois.
Moi, j'ai commencé dans l'immobilier même à moins zéro, on va dire.
Ok, ouais.
Donc, parce que quand on est salarié et que tu as 22 ans, 23 ans, au début, tu fais la fête, tu t'amuses. Peut-être que tu n'as même pas l'entourage qu'il faut. Et donc finalement, tout ce qui rentrait, je le dépensais à un moment.
Mm-hmm.
Moi, la notion d'investir est venue qu'après.
Okay, ouais.
Mais si je l'avais su un peu plus tôt, je crois que j'aurais fait encore beaucoup plus. Bon, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi.
Mm-hmm.
Moi, j'ai fait l'immobilier parce que quand tu te lances dans quelque chose, bon, faut y croire. Et moi, c'était, il faut que je puisse le voir. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Et puis, il faut oser. Et je m'étais dit aussi, fais-le maintenant. Si ça va bien, bah, tant mieux, tu cartonnes.
Donc là, t'avais quel âge, là ?
J'avais 24, plus ou moins.
Ah, ok, ouais.
Ouais, parce que je l'ai fait un peu en parallèle. Je m'étais mis aussi comme indépendant complémentaire.
Okay, ouais.
Donc, j'étais salarié indépendant complémentaire. Donc, je faisais les deux un moment ensemble parce qu'il y avait toujours ce besoin de sécurité.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Voilà. Mm-hmm. Et à un moment, je me suis... Il faut savoir que finalement, j'ai arrêté mon travail de salarié alors que j'étais déjà... J'avais déjà plusieurs millions.
Ah, ouais, ok.
Mais tu vois, il y avait encore ce besoin de sécurité.
Ah ouais, incroyable. Voilà,
parfois, c'est fou, mais...
Là, c'est marrant, le caractère des gens comme ça, parce que moi, je connais des gens aussi dans mon domaine, en e-commerce, qui avaient déjà gagné des grosses sommes d'argent, mais qui continuent d'être salariés pour avoir ce besoin de sécurité-là.
Voilà, et celui-là, il est resté. Il est encore là aujourd'hui, mais il est différent.
Mm-hmm.
Et ça, c'est quelque chose, il faut l'accepter. Tu vois, à un moment, tu l'acceptes, tu le sais, et ça aide déjà énormément. L'immobilier, je dirais, si tu veux rentrer dedans, ben, déjà avoir un bon entourage. Donc, dès que tu rentres dans l'immobilier, c'est de regarder ben, qui le fait bien, qui le fait moins bien. Il faut aussi savoir, comme j'ai commencé il y a plus de 18 ans maintenant en immobilier, on n'avait pas de GSM, il n'y avait pas ImmoWeb, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et donc, j'ai dû commencer de la base prospection journal.
Mm-hmm.
Il y avait un journal, Le Vlan Plus, qui sortait le samedi. Tu pouvais l'acheter le samedi pour être deux jours avant. Et le lundi, ils faisaient la distribution gratuite. Mais nous, on l'achetait le samedi pour avoir en primeur les infos. Et puis, on commençait à appeler prospection, comparer, visiter. Moi, je dirais, dans l'immobilier, commence petit, pas trop grand, trop vite. Mais après, ça peut s'enchaîner parce que finalement, c'est toujours dupliquer une recette.
Mmh.
Dès que tu sais comment il faut le faire, tu dupliques, tu multiplies. Et c'est ça qui va faire alors l'effet boule de neige.
Ouais. Ok, donc tu as commencé comme ça. Et donc, du coup, peut-être est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as mis ton premier pied dedans, quel type de bien tu as acheté, etc. Ouais. Comment tout a commencé, en fait, ton histoire dans l'immobilier, vraiment, pour ta première opération, on va dire.
Ma première opération, c'était un petit appartement, une chambre à jette de 48 000 euros.
Mm-hmm.
48 000 euros, je pense qu'avant, c'était normal. Aujourd'hui, trouver un bel appartement à Bruxelles à 48 000 euros, c'est plus facile du tout. Et j'ai fait moi-même les travaux. Donc, fait moi-même les travaux avec ma maman.
Donc, tu savais que tu voulais réussir, tu étais vraiment déterminé, même à mettre les mains dans le cambouis, etc. Tu t'es dit, si je veux...
Il le faut. Il faut vraiment se dire à maman, il faut même parfois se mettre à la place juste pour voir ce que c'est. Donc, moi-même, je le dis tout le temps... si tu fais même de l'immobilier à grande échelle, mais moi j'aime bien parfois de nouveau aller vers un appartement pour le mettre en vente, écouter les acheteurs, comme ça on sait ce qu'ils cherchent, quelles sont les conditions, faire attention à certains points, mais vraiment être proche du marché.
Mmh.
Et moi je pense que ça c'est une erreur que énormément de gens font quand ils deviennent très grands, c'est qu'ils se disent « ouais mais moi maintenant je ne dois plus faire ça » et finalement ils perdent la réalité.
Mmh.
Où ils ont pris une distance de la réalité. Et moi, j'aime bien rester proche pour entendre c'est quoi, qu'est-ce qu'ils cherchent, combien, quelles sont les conditions de la banque pour l'instant. Est-ce qu'ils cherchent plutôt une chambre, des deux chambres, trois chambres, mais moins dans le métier que moi je fais, qu'on expliquera peut-être après, mais surtout de qu'est-ce que les gens cherchent et part vite. Voilà,
c'est vraiment super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, par exemple... dernières années, et franchement, je suis personne, je gère mon petit business de mon côté, etc., avec mon équipe. Mais c'est vrai que j'ai tendance à de plus en plus déléguer, en fait. Ouais. Et à partir d'un moment, me dire, ben non, cette tâche-là, je ne vais plus la refaire parce que j'ai monté, en fait, dans la hiérarchie, tu vois. Et si ça fait, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois où maintenant, je reprends, en fait, ben déjà énormément de plaisir à refaire des tâches de niveau 1, être en contact directement même avec la clientèle, etc. Et en fait, ben, ça change tout, en fait. Ouais. Ça te donne vraiment toutes les informations qu'en fait, tu n'as plus eues pendant plusieurs années ou plusieurs mois où tu as beaucoup délégué, comme tu dis, tu arrives à mieux comprendre ton marché, à mieux pouvoir leur proposer des services de qualité aussi derrière. Donc c'est méga important, ça je te rejoins à fond.
Et quelque chose que tu viens de dire qui est très important, tu prends du plaisir. Mm-hmm. Ouais. Même si tu fais tâche une, mais qu'il y a du plaisir, c'est le plus important.
Ouais.
Et c'est ça que moi j'aime bien. Moi j'adore aller vendre un appartement. Mm-hmm.
Tu m'avais dit ça quand c'était vu à Marbella, où tu m'avais dit que toi, tu aimais bien encore en fait, avoir la main mise en fait, un petit peu sur tout, et que tu préférais avoir la main mise sur tout et le faire super bien que de le déléguer à plein de gens et que ce soit moins bien fait. En fait. Tu avais plus cette vision-là, je pense, que tu m'avais expliqué dans ton business. Quoi.
Il faut trouver une balance, un bon compromis entre les deux. Donc, nous, on avait aussi grandi très vite, énormément, quand on a commencé la construction neuve. Et là, on voyait bien qu'il fallait déléguer. Mais ce n'est pas parce que tu deviens très, très grand que tu gagnes aussi en une fois du fois 10, fois 20, parce qu'il y a les coûts fixes.
Ouais.
Donc, finalement, on s'est trouvé à trouver une bonne taille, mais on est super rentable.
Ok, ouais, je vois. Et du coup, tu as acheté ce premier appartement-là. Et comment ça s'est passé par après? Est-ce que tu as fait une plus-value dessus en le revendant directement derrière après les travaux? Tu l'as mis en location?
Alors,
comment ça s'est un petit peu passé?
La première idée que moi, j'ai eue, c'est de construire un patrimoine. Donc, très, très rapidement, je suis monté à 70 unités.
Okay.
En moins de 3 ans.
C'est incroyable.
Ça peut aller vite, ça s'enchaîne très vite. Mm-hmm. Après, ce qu'il y a eu, c'est qu'en 2009-2010, il y a eu la crise des subprimes, qui vient des États-Unis.
Ouais.
La seule chose, c'est que ça vient des États-Unis, ça nous influence par la télévision, des choses comme ça. Et à un moment, j'ai quand même eu beaucoup de locataires qui commençaient à ne plus payer les loyers, mais ils étaient salariés. Donc eux, ça ne changeait rien, mais ils commençaient à ne plus payer juste parce qu'ils entendaient des choses ou qu'ils essayaient. Et à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai plusieurs locataires qui ne payent pas. C'est moi qui dois continuer à payer parce qu'il y avait des crédits derrière, des crédits bancaires. Quelques mois, ça va, mais commencer à payer 6 à 8 mois pour autant de locataires, un, je ne suis pas leur banque. Et deux, à un moment, je ne pouvais pas tenir ça. Et c'est comme ça que finalement, j'ai commencé à revendre mes premiers appartements. Parce que c'est un métier. Acheter est un métier. Vendre un appartement est un métier aussi parce qu'il y a plein d'émotions. Nous, en tant qu'être humain, on adore acheter des choses, des belles choses, des investissements et tout. Mais il y a aussi le fait de devoir un peu, un moment, le réaliser. De se dire, je le vends. Et j'ai aussi vu que vendre était un métier.
Okay.
Et puis, il y a aussi de se détacher de la chose.
Ouais.
Vendre un appartement que tu dis, mais non, je l'avais acheté pour le garder 20-25 ans, devenir propriétaire après.
C'est à moi.
Mais ça m'a fait... Ça a été un déclic, finalement, pour aller encore plus vite et faire beaucoup de cash, finalement. Parce que ça, en immobilier, c'est un choix. Ou bien tu te fais des briques, ou bien d'un autre côté, tu te fais du cash. Et maintenant, en 2023, je dirais encore plus un mixte entre les deux.
Ok. Mais c'est incroyable parce que, je veux dire, de mon point de vue à moi, comment tu fais pour passer de une unité où tu fais les travaux dedans à 70, donc 70 unités en 3 ans, en fait? Ça a été quoi ta stratégie pour faire ça? Est-ce que c'est beaucoup d'effets de levier avec la banque ou,
L'effet de levier avec les banques était énorme. Aujourd'hui, on voit bien qu'elles sont devenues plus strictes parce qu'il y avait ce levier. On pouvait emprunter à 110, 120 %. Donc, tu pouvais dire,
Avec les frais de notaire aussi.
Avec les frais de notaire. Si tu arrivais à trouver un appartement où le loyer remboursait facilement la mensualité de la banque et que la banque englobait le tout, elle te suivait. Il ne faut pas oublier aussi qu'avant, ça a changé aussi, tu allais chez un banquier ou une banque. Le banquier devant toi pouvait te dire oui ou non tout de suite parce qu'il avait un pouvoir de décision. Par exemple, je me rappelle une banque, pour ne pas la nommer, mais pouvait jusqu'à 500 000 euros te dire oui ou non devant toi.
Ah ok.
Il fallait savoir, par exemple, quand j'ai acheté ma première Porsche, je l'ai acheté en moins de 12 heures parce que c'était un oui ou un non tout de suite.
Ouais, maintenant, ça doit passer par des instances, recevoir le courrier, enfin le mail en retour,
ça prend plusieurs jours. Même, ils ont changé tout le système. Mais avant, si tu avais un super bon dossier, tu arrivais, tu le montrais, une bonne expertise, tout de suite, c'était OK. Okay. Donc, tu pouvais enchaîner assez rapidement.
Ok, ouais, donc c'est vraiment grâce à ça en fait, que tu as pu enchaîner entre les bonnes affaires, les bonnes rentabilités, où la banque te suivait, mais où tu étais rentable derrière aussi par rapport à la location qui remboursait le crédit, etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à vite enchaîner à ce niveau-là. Quoi. Et aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est toujours aussi simple de faire ça ou bien c'est quand même plus compliqué dans l'immobilier?
Alors, je vais pas dire compliqué, c'est moins facile, mais on peut y arriver. C'est peu comme dans tous les secteurs. Mm-hmm. C'est moins facile.
Faut juste pouvoir s'adapter à son environnement, comme dans tout. Quoi.
On s'adapte, on s'entoure, on apprend encore. Même moi, après 18 ans, je continue à apprendre, à faire des séminaires. Hier, j'ai acheté un coaching pour moi, d'un prix quand même assez élevé, mais juste parce que je veux continuer à apprendre. Mmh. Et au plus j'apprends, au plus je gagne.
Ouais. Voilà. Ouais, au moins tu stagnes pas parce qu'au plus t'apprends, au plus t'as envie de faire des choses aussi quoi. Ouais. Au plus t'as d'informations, au plus t'as envie justement de bouger et tout ça.
Oui, c'est motivant, inspirant. Et ça actionne aussi.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Moi, parce que moi, j'ai vraiment vu la différence. Moi, il y a vraiment une période dans ma vie, c'était pendant le Covid, en fait, où là, j'ai vraiment été enfermé chez moi. Je voyais plus personne. Et j'avais plus trop envie de voir des gens pour certaines raisons, etc. Et pendant pratiquement un an, j'ai pratiquement plus vu personne. Et j'ai continué mon business qui a continué à tourner. Mais mon évolution à ce moment-là par rapport à aujourd'hui, où je voyage, où je prends des coachings, où je prends des informations tous les jours, la différence d'évolution est énorme, quoi. Au période de Covid, j'ai peut-être fait deux pas. Maintenant, j'ai fait deux pas sur l'année, si j'en fais deux par jour, quoi, tu vois. Ouais, donc, voilà. C'est vrai que quand tu as les informations, comme tu dis, ça actionne en fait des leviers dans ta tête. Tu te dis, OK, j'apprends ça, boum, je vais devoir l'implémenter directement derrière. Et tout va beaucoup plus vite. Quand tu vois des gens, etc. aussi, tu me parlais hier que tu avais été à une conférence. Ça change, ouais. c'est tout bête, mais ça change tout, en fait. Ouais. De parler avec des gens et tout ça dans ta tête, ça te donne envie à chaque fois, en fait, inconsciemment, d'aller plus loin et d'avancer. Tu n'as certainement pas envie de rester le lendemain dans ton fauteuil et de jouer à la PlayStation, quoi. Tu as envie de faire qu'avancer quand tu rencontres des entrepreneurs tout le temps, quoi.
Il y a ça. Et alors, il y a aussi, et moi, c'est ça que j'adore, c'est quand on a une discussion, tu vas à un séminaire, tu prends un coaching ou quoi, au moment même, tu vas dire, ouais, ok, ou oui, je le sais déjà. Mm-hmm. Et parfois, deux, trois jours après, ou ça peut être deux semaines après, tu te prends une claque, c'est, ouh, il y a ça qui vient d'arriver, ou je viens de comprendre ça ou ça. Et c'est à ce moment-là alors qu'il y a des déclics.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est même pas en fait. Ouais, déjà il y a la connaissance en un, ça c'est sûr, ça prime. Mais c'est vraiment le mindset. En fait, t'es entouré d'entrepreneurs comme dans une conférence, etc. Mais c'est les énergies en fait. Ça, tu sais pas voir le ROI directement que les énergies peuvent avoir comme bénéfice sur toi. Ça, c'est incalculable, je veux dire sur papier. Mais pourtant, il y a vraiment un effet aussi. T'as aussi un retour sur investissement avec les énergies qui t'entourent, les gens qui t'entourent, et ça te pousse toujours vers le haut aussi. Ouais. Mais ça, parfois les gens ne le voient pas. Ouais. Mais pourtant, c'est bien là et c'est ça qui
énergie, ça se voit pas, mais tout est énergie. Et en plus, on est des machines d'habitudes. Tout ce qu'on fait, ce sont des habitudes. Et dès qu'on change les habitudes vers quelque chose de meilleur ou de bon, c'est là où ça évolue. Mmh. Mais on n'est que habitude. J'ai encore donné un petit séminaire de deux jours et on a fait l'exercice. Le premier jour, tout le monde s'assit, on est une trentaine. Mmh. Le deuxième jour, je dis rien. Tout le monde arrive et puis je lui dis, il y a quelque chose que vous constatez ou pas ? Il fait, non, je ne sais pas quoi. Vous êtes tous assis à la même place que hier. Mm-hmm. Or que je ne vous ai pas demandé. Je vous ai laissé faire juste pour constater. Mais tout ce qu'on fait, c'est souvent des habitudes.
Ouais.
Des habitudes.
Ouais, et changer des habitudes, c'est incroyable comme ça peut aussi te propulser vers le haut, quoi.
Mais c'est un peu ça que, ou bien t'aimes bien changer tes habitudes, ou bien tu détestes changer tes habitudes.
Je pense que de base, tout le monde déteste changer ses habitudes. Mais une fois que tu prends l'habitude de changer tes habitudes, là, tu te dis, punaise, c'est tellement bénéfique sur moi qu'il faut que je le fasse plus souvent, quoi.
Et c'est dans tous les secteurs.
Ouais, à fond. Ouais. Moi, je l'ai vu, d'ailleurs, on en avait parlé, je t'ai dit la semaine passée quand j'étais en Espagne, là, dans mon appartement. C'est un appartement que je viens d'acheter, j'ai pas encore de meubles, j'avais un matelas au sol et juste un bureau et ma chaise. Donc, bien sûr, t'es déstabilisé, t'as pas ton confort et tout ça. Mais le fait d'avoir passé trois semaines comme ça, j'ai avancé à une vitesse de fou parce que j'étais déstabilisé et ça me poussait tous les matins, boum, directement être déstabilisé dès la première heure, en fait. Et donc, du coup, ça te pousse déjà à mettre un gros effort dès le matin. Ouais. Et après, le reste, t'avances encore plus vite dans ton métier, que dans ton boulot, que si t'es dans ta zone de confort et tout, t'avances plus lentement. Et ça change tout dans la vie, quoi. C'est incroyable. Mais du coup, pour rebondir justement sur ton parcours à toi, je me souviens que quand on s'était vu, toi, tu m'avais dit que les locataires, c'est bien, mais toi, ce que tu préfères, c'est que ça va vite, achat-revente, etc. C'est aujourd'hui, je crois que tu es beaucoup dans cette stratégie-là. Comment ça se fait du coup que tu es passé en fait, de 70 unités, j'imagine, en location, aujourd'hui, je pense encore avec de la location, mais surtout avec plutôt des effets de levier rapide, de l'achat-revente, etc. Quoi.
Ben, à un moment, tu compares. Tu peux te dire, j'ai des locataires, j'ai des banques derrière avec des crédits et je gagne autant par mois. Ça, c'est très facile à vite voir combien on gagne par mois. Et alors, tu te fais ton calcul de voilà, j'ai un cash flow de autant sur une année par appartement. Et puis, tu peux te dire, bah, tiens, si je fais un achat-revente dessus, bah, je peux prendre un plus gros montant tout de suite. Et mm-hmm. puis, tu compares ton cash flow par mois ou annuellement à ton cash flow tout de suite. Et mm-hmm. parfois, ça peut être, je dois attendre 20 ans avant d'avoir ce montant-là ah ouais. que je pourrais avoir tout de suite en achat-revente. Mm-hmm. Bon, maintenant, moi, je dis toujours, il y a trois choses dans la vie, c'est argent, temps, énergie. Tu peux attendre 20 ou 25 ans avant d'en être propriétaire et puis plus tard te dire « Ah bah tiens, maintenant j'en suis propriétaire à 100%, c'est plus la banque. Mm-hmm. » Ou bien te dire « Bah tiens, moi j'ai envie d'être dans un système qui, pour aller un peu plus vite, pour avoir des montants tout de suite, pour profiter de la vie. »
Ouais.
D'accord ? La vie, parfois, elle peut être bah, très courte pour certains, enfin, qu'on entend des histoires et tout ça. Et moi, je me suis toujours dit bah, « J'ai envie de vivre tout de suite. » Ou me faire plaisir tout de suite. Mmh. Ou pourquoi est-ce que je n'ai pas droit à faire tel voyage ou à voir telle chose tout de suite.
Ouais.
Ou un peu plus vite que devoir attendre longtemps. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit comment je peux améliorer un processus. Je voyais déjà, parce que j'étais agent immobilier, comment certains de mes clients le faisaient. J'ai appris de là les points positifs, les points négatifs, à quoi il fallait vraiment faire attention. Et je me posais tout le temps la question comment je peux encore optimiser le processus, le corriger ou aller plus vite. Mmh. C'est dans beaucoup de secteurs, c'est ça. Hein.
Ouais.
Tu peux faire mieux, plus grand, plus vite, essayer de maîtriser à 100% les risques. Mmh. 100%, on ne sera jamais maîtrisé, mais quand même énormément. Mais c'est là où tu trouves une formule qui marche. Et une fois que tu l'as comprise, bah, moi maintenant, je suis dans le partage. Je me dis, mais mince, si quelqu'un m'avait dit il y a 15, 20 ans, il y a ça qui existe, fais-le tout de suite. Mm-hmm. Moi-même, j'ai perdu de l'argent juste parce que je n'étais pas au courant de quelque chose que mon notaire savait. Et mon notaire m'a dit, mais tu ne m'as pas posé la question. Mais comment est-ce que tu veux poser une question sur quelque chose que tu ne sais même pas que ça existe. Mm-hmm. Donc, j'ai perdu 20 000 euros.
Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Quoi.
Voilà. Mm-hmm. Mais moi, j'ai perdu 20 000 euros sur un dossier quand j'avais 25 ans, juste parce que je ne savais pas que ça existait. Et puis, j'ai la remarque, mais tu ne m'as pas posé la question. Mais comment est-ce que tu veux poser une question sur quelque chose que tu ne sais même pas ?
Mmh. Voilà. Ouais. Mais moi, je rebondis juste sur un truc où tu dis que tu voulais te faire plaisir tout de suite, pas attendre et tout ça. Et moi, ça, c'est une réflexion que j'ai beaucoup. Je me dis, même si je gagne de l'argent, par exemple, si je vais aller en voyage et que je vais devoir louer un truc, je ne vais pas louer le truc le plus cher ou le plus grand luxe, je vais toujours louer le truc. Je vais essayer, tu vois, j'ai toujours l'impression d'un peu, pas me faire arnaquer, mais tu vois, donner de l'argent pour rien, tu vois. Et c'est vrai que parfois, par exemple, ici, quand je vais partir aux Émirats, là, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Ouais. Ça ne changera rien à ma vie, de toute façon. Et je paye un truc trois fois plus cher, mais j'aurai un confort de fou, tu vois. Et c'est vrai que parfois, moi, j'ai du mal, en fait, à faire ce pas-là. Alors que toi, je sais, on en avait un petit peu parlé.
Je le fais quand même encore que je compare.
Par exemple, tu m'avais parlé aussi avec tes voitures, qu'à un moment, tu t'étais retrouvé avec 7 ou 8 voitures, où tu as tendance parfois à te faire plaisir rapidement. Comment est-ce que tu arrives, en fait, toi, à trouver peut-être un juste milieu pour toi là-dedans ? Ouais. C'est quoi ta vision des choses par rapport à ça ? Est-ce que tu préfères te faire plaisir tout de suite et, je veux dire, dépenser de l'argent pour ton confort de vie, etc. ou bien te dire, bah, j'économise pour plus tard au risque que le plus tard n'existe jamais, quoi, tu vois ? Comment est-ce que tu... C'est quoi ta vision par rapport à ça ?
Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'avais plusieurs voitures, enfin oui, c'est même monté jusqu'à 8 voitures à un moment, j'investissais en même temps. Donc, je consommais, mais en même temps, j'investissais en immobilier. Mm-hmm. Donc, je savais que tout n'était pas perdu ou que je grandissais.
Ouais.
Mais en même temps, je me suis fait plaisir. Et il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, le coût de la vie ou certaines choses, les prix ont quand même augmenté fortement. Si je donne le prix de ma Porsche que j'ai achetée il y a plusieurs années, aujourd'hui, ce serait, on ne trouverait plus. Mm-hmm. Donc, on voit bien que certaines choses ont fait du x2, x3. Donc, avant, on se faisait plus facilement plaisir qu'aujourd'hui. Ça, c'est ce que je trouve. Par exemple, même les voitures.
Ouais.
Moi, allez, je vais donner le prix. Hein. J'ai acheté une Porsche à 35 000 euros.
Mm-hmm. Okay, ouais.
Qui était nickel.
Ouais.
Qui n'avait même pas 30 000 km. Aujourd'hui, vas-y, pour trouver une belle Porsche, moins de 30 000 à ce prix-là. Mm-hmm. Donc, à un moment, je suis monté très vite dans... J'avais acheté une super belle Aston. Mais le truc qu'il y a aussi, c'est que je trouvais quelque chose qui me faisait plaisir, mais je voulais faire la bonne affaire en même temps. Donc j'arrivais à combiner ça aussi, ou te dire bah tiens voilà, je m'achète telle belle montre, mais je sais que c'est pas perdu, elle va prendre en valeur, je me fais plaisir, mais jamais dans quelque chose où je vais me faire plaisir et que c'est perdu. Ça, c'est, il fallait avoir un mixte entre les deux.
Je vois ce que tu veux dire.
Donc, voiture, montre, immobilier, ces choses-là. Mais fallait que, on l'a, c'est pas perdu, ça se voit et ça prend valeur si tu as bien fait le calcul avant.
Voilà. Ouais. Et c'est comme ça dans tous les domaines de la vie ou pas, par exemple, pour te faire plaisir à un voyage avec ta famille, etc., tu vois? Parce que finalement, un voyage, c'est des expériences aussi qui méritent d'être vécues, qui sont incroyables. Est-ce que là-dedans aussi, tu vas dépenser de l'argent facilement? Parce que pour toi, les expériences de la vie sont aussi importantes que le business, tu vois, que l'investissement dans des biens matériels, tu vois?
Mais déjà, il y a une croyance que je trouve qu'il faudrait essayer de bien nettoyer, c'est que voyager ne coûte plus aussi cher qu'avant. Donc, aujourd'hui, on a des applications sur lesquelles on peut facilement comparer les hôtels. Aujourd'hui, prendre un ticket d'avion est beaucoup plus facile qu'avant aussi. Ce que je fais bien attention, par exemple, c'est que si je pars quelque part, comme là maintenant, je vais partir à Los Angeles pendant 2 semaines, on a un petit peu regardé les jours. Par exemple, à un jour près, tu payes du simple au double. Mmh. Bah, je ne vais pas dire je vais me bloquer sur cette date-là. Je joue un petit peu là-dessus parce que je sais que je vais gagner dessus, mais il faut aussi comparer, regarder, et c'est ça qui va faire que tu vas économiser, gagner de l'argent, mais avoir la même expérience.
Ouais.
Donc nous, en décalant un vol de 3 heures, on gagne 2000 euros. Mmh. 3 heures, 2000 euros. Ouais. C'est un peu ça que je compare. Uh-huh. Les hôtels, je peux aller dans du bas de gamme ou moins cher que du haut de gamme, mais moi, je m'adapte très vite. Et ce n'est pas quelque chose qui m'ennuie. Mm-hmm. Tu vois?
Ouais, je comprends. Ouais, parce que tu n'es pas attaché émotionnellement non plus à du matériel. Tu arrives à prendre du recul là-dessus. Voilà. Et donc, tu arrives à t'adapter un petit peu à tout. Si c'est bas de gamme, bah, c'est OK. Tu sais bien que ce n'est pas ça qui va changer ton humeur parce que tu es détaché de ça.
Non,
et si c'est du haut de gamme, bah, c'est bien, mais ce n'est pas non plus ça qui va te rendre le plus heureux du monde. Quoi.
Voilà. Et c'est ça qu'il faut aussi voir. Et parfois, on a des belles surprises.
Ouais. Voilà.
Donc, ça, oui.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Mais rester flexible. Mm-hmm. Pas un moment se dire aussi parce que. C'est pas parce que je peux me le permettre qu'aujourd'hui je dois que avoir ça ou ne plus faire attention. Moi, je dirais, il faut continuer.
Un équilibre.
Voilà, trouver un équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui est bien. J'en ai encore parlé avec mes élèves pendant un séminaire où je disais, on parle énormément de la liberté financière. Moi, je dis qu'il y a une étape encore au-dessus qui est la paix financière. Parce que je connais des personnes qui sont libres financièrement, mais qui stressent tous les 10 minutes. Mmh. Et d'autres qui ont une paix financière, c'est qu'ils ont peut-être un tout petit peu moins, ou qu'ils ont moins que certains, mais ils sont relax.
À fond, ouais.
Ouais, moi, je me suis associé avec quelqu'un à un moment qui pèse presque 300 millions, mais qu'est-ce qui stressait ? Et c'est aussi, c'est comme ça qu'on apprend.
Mmh. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est intéressant. Je t'en avais parlé, moi, j'ai mon ex-associé aussi, j'avais déjà eu pas mal de discussions avec lui, pareil, beaucoup, beaucoup d'argent, mais... Voilà, sur tous les fronts, de 7h du matin à 1h du matin, tous les jours, non-stop, du WhatsApp dans tous les sens, ça fait que stresser. C'est comme tu disais, qu'est-ce que tu veux finalement dans ta vie? Est-ce que tu préfères gagner autant et être cool et vivre bien, pouvoir profiter, ou gagner ça, mais ne pas arrêter, être finalement comme un robot tout le temps? Ça dépend un petit peu de l'attente de chacun dans la vie, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de discussion-là. Parce que tout le monde pense toujours qu'il faut aller à fond, alors que non, justement, parfois, profite aussi, parce que s'il n'y a pas... Je veux dire, la réussite d'une vie, ce n'est pas que la réussite pour moi d'un point de vue business, quoi. C'est aussi l'accomplissement personnel, les expériences de vie, les gens que tu vas rencontrer. Et c'est pas, il n'y a pas que le travail non plus. Le travail t'amène des choses personnelles aussi. Ouais. Mais il y a aussi tout ce qu'à côté tu pourras vivre comme expérience, que ce soit en couple avec des amis, etc. C'est même encore plus enrichissant que ton métier et qu'une plus-value que tu pourrais faire sur un bien ou de l'argent que tu vas pouvoir gagner grâce à un business en ligne, quoi. Ouais. Ça, c'est important de...
Et quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est que au moins ça devient une pression, au plus tu gagnes.
À fond.
Enfin, je sais pas.
Ça, c'est incroyable. Moi, je me suis déjà fait la réflexion aussi, quand tu cherches absolument à gagner de l'argent en faisant ça, tu vas pouvoir en gagner parce que tu es bon en business et tu peux le faire. Mais justement, quand là, tu n'as plus besoin d'argent et que tu fais vraiment le truc juste naturellement par plaisir, là, tu as l'argent qui arrive, mais ça crache de partout.
Argent, les bonnes personnes qui arrivent,
exactement,
l'entourage qui change, le fait que comme tu n'as plus cette pression, bah, tu peux aussi faire attention à certaines choses et ça fait une grosse différence.
À fond, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'arriver à ce point-là où t'as plus de pression en fait. Parce qu'il y a tellement de facteurs autour de toi qui font que t'as de la pression. C'est pas évident, c'est une question, c'est un mélange de beaucoup de choses.
C'est le mindset.
C'est ton mindset, c'est tes énergies, c'est le moment aussi de l'année. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est vrai que moi, il y a des périodes comme ça et ça arrivera encore où je suis plus sous pression pour X ou Y raison, qu'il y a même dans ma vie personnelle. Donc, ça se répercute dans ma vie professionnelle. Et justement, quand je suis bien dans ma vie personnelle, ça se répercute dans ma vie professionnelle. Et là, comme tu dis, ça attire les bonnes personnes, l'argent qui rentre plus facilement aussi. C'est toujours une question de mindset, comme tu disais, quoi. Mais du coup, pour revenir juste sur ton parcours à toi, donc 70 unités, donc 70, puis après achat-revente, etc. Est-ce que tu peux un petit peu en parler plus vraiment maintenant c'est quoi en fait ton secret, c'est quoi ta technique, ta stratégie pour faire de l'achat-revente rapide? Parce que tu m'avais parlé quand on s'est rencontré que toi tu vendais même les biens parfois même avant de les avoir achetés.
Oui.
Comment c'est possible en fait?
Alors souvent on va nous expliquer en immobilier, tu dois demander un crédit. Ton banquier te donne un crédit sur 20, 25 ans. Avant, il y a même 30 ans, mais ça, ils ont arrêté. Mais 20, 25 ans, tu rembourses chaque mois la banque via un loyer qui rentre ou même si c'est ton domicile où tu habites. Et dans 20, 25 ans, tu en seras propriétaire. Ça, c'est un petit peu la formule classique qu'on entend chez tout le monde. Et à un moment, je m'étais dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une autre formule qui fonctionne pour aller plus vite que 20, 25 ans? Je suis tombé sur les options. Les options, c'est quoi? C'est finalement, on te donne déjà le droit de vendre avant d'être propriétaire, de faire certaines choses avant d'être propriétaire. Et donc, tu gagnes du temps. Tu peux éviter aussi, s'il le faut un moment ou pas, la case banque. Je peux même ça me fait penser à un deal que j'ai fait à 15 km d'ici, où je me suis tellement habitué à faire sans banque qu'à un moment, j'ai failli rater un super bon deal avec un bénéfice de 400 000 euros parce que là, j'ai dû passer par la case banque. Mais tu vois, mon cerveau était déjà « Ouais, mais tu fais tellement de trucs sans banque, est-ce que tu veux le faire ou pas ?» Que même à un moment, j'étais prêt à me dire « Tiens, j'oublie 400 000 euros.
Ouais. »
Enfin, non, Yannick, reprends-toi. Mais sinon, c'est quoi? C'est la technique, c'est quoi? C'est énormément de secteurs. Par exemple, quelqu'un qui vend, qui a un stock. Il est commerçant, il a un stock qu'il doit vendre. Souvent, ses livreurs lui donnent 30, 60, 90 jours avant de payer, mais il peut déjà les mettre en vente. Ma technique, c'est un peu la même chose pour comparer. C'est je peux vendre déjà l'immobilier avant d'en être propriétaire. Il y a des règles à respecter. C'est bien encadré et c'est légal. C'est ça qui est bien.
Okay.
Parce que souvent on me dit aussi, ouais, mais si c'était tellement facile, tout le monde le ferait.
Ouais, tout le monde le saurait. Voilà.
C'est
vraiment une niche dans l'immobilier, quoi.
C'est une niche, mais une fois que tu la maîtrises, c'est un peu comme tout. Dans l'e-commerce, la même chose. C'est un moment, quand tu as compris comment il faut faire, tu dupliques. Le même système en immobilier, tu dupliques l'option l'un après l'autre. Il faut faire attention. Et c'est surtout là aussi, c'est au début, mes élèves, par exemple, ils font énormément attention à tout parce que c'est le début. Puis ils en font deux, trois, l'argent rentre. Vite, on parle quand même de certains montants de 80 000, 140 000 euros. Il y a même un qui a fait 200 000 euros de bénéfices. Et puis, oh, tu vois, c'est tellement facile. Et je dis, à ce moment-là, bien faire attention parce que c'est là où tu pourrais faire une erreur.
Avec la pas du gain, tu vas aller trop vite et c'est là où tu occultes certaines choses en pensant que tout va tout rouler comme tes premières opérations. Quoi.
Et puis, à un moment, il y a aussi la croyance sur l'argent. Ça, c'est un truc qui est énorme.
C'est-à-dire, du coup?
À un moment, tu as un élève qui se dit, oh, tiens, je vais prendre une formation pour tester, en disant peut-être que ça fonctionne, peut-être pas, et à un moment ça fonctionne. Il y a l'argent qui arrive sur le compte, c'est la première fois qu'ils ont autant d'argent. Et c'est là où après tu as plein de choses qui reviennent, des croyances, l'éducation. Quelqu'un ce week-end qui me disait, oui, mais moi ma grand-mère m'a toujours dit, l'argent c'est pas pour nous. Mais si on te répète chaque fois cette phrase, à un moment, elle va s'ancrer.
Ouais, c'est dans ton subconscient. Voilà. Et du coup, l'argent va avoir du mal à arriver, en fait.
Voilà. Et dès qu'il y a l'argent qui arrive sur les comptes, c'est là où je vois bien les choses que je dois encore presque plus encadrer quand il y a l'argent.
Psychologiquement, les gens, que pour apprendre à le faire.
Voilà.
Ouais, c'est intéressant. Moi, Moi, je ne sais plus c'était dans quel livre. C'était pas Père riche, père pauvre. Enfin, bref, c'était un livre que j'avais lu, Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill, peut-être.
Ouais.
Et en gros, il expliquait que ben, si déjà, de base, par exemple, tes parents trouvaient les riches, disaient que tous les riches étaient des grands méchants, par exemple, ouais. Dans ta tête, c'était d'avoir un blocage par rapport à l'argent et que ça allait être très difficile, justement, d'avoir de l'argent ouais. qui allait rentrer sur ton compte bancaire. Tandis que quand, en fait, tu n'as pas de pensée négative par rapport à l'argent, ben, tu as déjà plein de barrières qui sont cassées et donc toutes ces barrières sont ouvertes et donc l'argent va rentrer plus facilement par là, ouais. en fait. Mais c'est vrai que quand...
Ça, c'est la réalité. Ça, c'est vraiment quand je le vois, parce que... Ouais. Quand je vois les résultats de mes élèves, et j'en suis fier, ça c'est vraiment quelque chose de top, c'est après que ça commence à chauffer, on va dire, dans leur tête. Et j'avais même un élève où il avait gagné énormément d'argent très vite, et je lui ai dit, tiens, est-ce que je pourrais te poser 2-3 questions, et comme ça tu vas aider les autres. Parce que oui, il y a Yannick qui le fait depuis plus de 18 ans, et un élève qui vient de le faire, et je voulais lui poser 3 questions. Il me dit, non, j'aimerais, j'ai pas envie que ma famille soit au courant. J'ai pas envie que ma famille sache combien j'ai gagné. Mmh. Voilà, tu vois, donc c'était déjà un...
ouais.
Je dis, ok, je te respecte, mais tu vois bien qu'inconsciemment, il y a plein de petites choses autour.
Ouais, ouais, c'est ça. À fond. Et quand tu restes justement avec des gens qui ont des problèmes avec l'argent, que ce soit ta famille, etc., ben, même si toi, t'as pas de problème, ben, ça, inconsciemment, ça vient jouer. C'est, on en avait parlé, mais c'est comme si t'as un panier avec plein de super belles pommes, une pomme pourrie.
Ouais,
t'as la pomme pourrie dedans, ouais. Ben, ça va venir impacter les autres. Et avec les humains, c'est la même chose aussi. Donc, c'est vrai que, encore une fois, on reparle de ça, mais énergie, mindset, etc., ça fait toute la différence.
Ouais.
Le fait de changer d'environnement, d'être entouré des bonnes personnes pour réussir justement dans n'importe quel secteur, ça change absolument tout. Ouais. Quoi.
Mais là, dans 5 jours, je repars aux États-Unis pour de nouveau remettre mon mindset à moi, de nouveau encore plus haut, parce
ouais.
que je sais qu'il faut rester continuellement dedans.
Mmh.
Ouais, dedans, dedans. Et au plus tu le fais, au plus de résultats que tu as.
Ouais. Bah justement, ouais, on peut peut-être parler de ouais. ça. Tu pars du coup à Los Angeles.
Oui, Los Angeles.
Donc
ouais.
pour la conférence de Grant Cardone.
Ouais.
C'est pas la première que tu fais. Est-ce que tu peux un petit peu en parler?
C'est quoi?
Qu'est-ce que ça a changé quoi dans ta vie d'y aller? Pourquoi est-ce que tu y retournes en fait?
Ouais, là, ça va être ma 4e fois. Mais c'est surtout que je pensais déjà super bien faire. Et dès que tu arrives aux États-Unis, déjà ça, tu te dis waouh, c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire. C'est la première claque. Puis, quand tu commences à discuter avec des Américains, ils n'ont pas de tabou. La première chose, c'est par exemple, bonjour, tu gagnes combien? Alors qu'ici, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un ou que tu connais quelqu'un même très bien, il ne faut peut-être pas parler d'argent ou c'est tabou. Là-bas, c'est tout de suite, boum. Ils font tout en grand et c'est là où tu te dis, mince, il y a encore tellement de choses à faire. Et ça t'ouvre l'esprit à nouveau et ça rebooste aussi. C'est motivant. Moi, chaque fois que j'y vais, pendant 3, 4, 5 mois, je suis de nouveau boosté à 400%. Ouais.
Ouais. Et pourtant, cette conférence-là où tu vas, ça ne parle pas que d'immobilier, c'est plutôt...
Il y a même... Non, ça ne parle pas immo.
Ok, donc c'est vraiment pour ton mindset et pour avoir ce boost de motivation et ce boost de te dire, ok, j'ai envie de continuer. Enfin, je sais que maintenant, je suis boosté à bloc pour continuer ouais. à avancer, quoi, c'est
voilà.
ça.
Et moi, pourquoi je vais là-bas? Bon, parce que je sais comment c'est, mais ça, au début, j'allais là-bas parce que en Europe ou en Belgique, même en France et tout ça, on ne l'avait pas. Maintenant, ça commence.
Mmh.
On sent que la tendance, parler de plus de mindset et toutes ces choses-là, ça commence. Bah, on crée des présentations, des séminaires. C'est ce que tu fais.
Mmh.
C'est ce que tu fais tous les jours. Tu motives des gens à le faire et c'est en train d'arriver. Mais moi, il y a 10 ans, il fallait que je prenne un avion pour aller sur un autre continent pour avoir ça, alors qu'aujourd'hui, on peut l'avoir ici aussi en Europe.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, incroyable. Et donc, du coup, ça se passe comment? Ça dure sur plusieurs jours, hein,
là, c'est 3 jours.
3 jours, ouais.
Ouais.
Ouais. Et c'est quoi la sensation que tu as quand tu vas justement à un événement comme ça, bon, à part le mindset, etc. Tu ressors de là comment, en fait, tu as envie de tout défoncer d'un point de vue argent, d'un point de vue juste parcours, expérience,
ouais.
ça change quoi pour que les gens arrivent un petit peu à se rendre compte, en fait.
Tout défoncer, finalement. Il n'y a pas que l'argent. Tu vois, à un moment, l'argent est important, mais il y a plus de choses. Déjà, l'expérience de l'avoir fait. Les gens avec qui j'y vais pas seul. Les gens avec qui tu t'entoures. En plus, ce sont les mêmes personnes avec qui je l'ai déjà fait 3-4 fois. Ouais, donc ça, cette année, c'est la première année où ma compagne vient avec.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable. C'est que, par exemple, Grant Cardone, sa femme, sa famille, c'est très, très important. Il fait presque tout son business avec sa famille. Et, enfin, il n'a même pas mis ses enfants à l'école. Bon, là, on pourrait en faire un débat, mais je veux dire, même lui, il se dit, voilà, moi, je préfère éduquer mes enfants d'une telle manière pour qu'ils aient un mindset différent. Mm-hmm. Donc, tu vois, parfois, ça peut même être plus très loin. Mais ici, ce qui est top, par exemple, c'est que ma compagne vient avec.
Ouais, ça, c'est bien. Ouais.
C'est quelque chose de dingue.
C'est la première fois qu'elle vient, là, du coup ?
Ouais.
Ah ouais, ouais, ça doit être incroyable, ça.
Ouais, ouais. Elle attend ça aussi.
Ouais, ouais, ça doit être top. Mais moi, du coup, moi, je me demande, allez, en te voyant d'un point de vue extérieur, bah, t'avances, tu continues à avancer, tu fais beaucoup de business, tu vas beaucoup à des événements pour garder justement un mindset au top, continuer à avancer. Mais on est tous humains, on a tous des moments un peu plus de down, etc. dans ouais. notre vie. Est-ce que t'as peut-être, je sais pas, une anecdote à raconter là-dessus ou un moment où t'as été peut-être assez bas psychologiquement ou quoi ? Et comment t'as fait pour remonter la pente ? C'est toujours intéressant de voir parfois l'envers du décor, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certains moments où on est moins bien psychologiquement et ça impacte fort notre business aussi. Ouais. Et comment tu fais pour te relever de ça en fait ?
Alors moi, ce que j'ai constaté, et ça c'est bien, il faudrait que chacun le fasse pour soi, c'est de se dire à quel moment je me sens down, à quel moment je me sens bien, est-ce que c'est une fois ou est-ce que parfois ça revient ? Tu vois, des patterns, on va dire. Mm-hmm. Et moi, finalement, ce que j'ai vu, c'est que je déteste l'automne et l'hiver. Enfin, mais dès qu'il fait gris, je suis down. Dès qu'il fait bon, je peux de nouveau booster. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai moins constaté, par exemple, après seulement. Mmh. Et finalement, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, comme je t'ai dit, je suis allé 24 heures à Marbella pour de l'IMO, mais en même temps aussi pour se dire, il y aura du soleil, ça va me faire du bien et je vais te rebooster. Même parfois que 24 heures, 48 heures peut de nouveau te remettre ton mindset à 400%.
À fond, ouais.
Moi, j'ai bien vu que ça, c'est quelque chose qui était difficile pour moi, c'est que dès qu'il fait beau, je pourrais te faire des millions et des millions. Mm-hmm. Mais dès qu'il commence à faire gris, c'est pour ça que j'aime bien bouger, voyager. Mm-hmm. Parce que finalement, ce que j'ai aussi constaté, c'est que quand je suis quelque part d'autre, j'en ai encore discuté avec un ami à moi hier par téléphone, c'est dingue, mais chaque fois que je pars quelque part, les belles choses en business se transforment ou se font, alors que je ne suis même pas dans le pays. Mm-hmm. Et alors aussi, quelque chose que j'ai constaté... Les downs sont souvent venus des autres, pas de soi. Donc, par exemple, en immobilier, si tu dois aller voir des banquiers et qu'ils te disent à un moment non, 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 ou qu'on ne croit pas dans ton projet, c'est peut-être les autres, tu vois. Mais toi, tu te dis, mince, moi, j'étais boosté à 400%, et puis une porte qui se ferme là, une claque là, des choses comme ça, et puis ça vient vers toi. Mais dès que tu te dis, je ne veux pas prendre leur peur, leur croyance, leur sécurité peut-être, alors là c'est reboosté.
À fond, ouais.
Mais si à un moment, il faut. Moi je dis toujours, il y a trois étapes et c'est dans tout. Identifier, accepter, changer. Ça c'est dans l'IMO, dans tous les secteurs, même dans les secteurs de business, vie professionnelle, vie privée. Trois choses. Identifier, tu l'acceptes, même déjà accepter c'est beaucoup. Et puis après tu le transformes ou tu le changes. Ces trois étapes-là dans tout.
C'est vrai que d'un point de vue mindset, en fait, que justement pour avoir un boost de mindset ou un gros down de mindset, ça vient souvent justement, moi ça m'est déjà arrivé souvent, de ce que la personne en face de toi va te dire en fait. Voilà. Ça te dit un truc, parfois ça peut bam, juste une phrase, et parfois elle va te dire un truc, bam, tu vas être down directement. C'est toujours maintenant ta manière après de prendre du recul par rapport à ça et d'interpréter la chose pour pouvoir encore plus être boosté ou justement essayer de bloquer justement la phase où tu vas être down.
La bloquer, je trouve que c'est très facile en se mettant dans l'action. Dès que comme tu as dit au tout début, moi je dois faire plein de choses, j'adore faire des choses. Si je reste trop dans mon canapé ou un truc comme ça, ben, finalement, non, il faut action. Ouais. Et alors ça va rebooster automatiquement. Un des meilleurs remèdes, c'est quoi ? C'est marcher. Si à un moment ça ne va pas, va faire une marche de 20-30 minutes, je peux te dire qu'après tu vas être reboosté.
Ouais, intéressant ça, ouais.
C'est des petites choses comme ça. On pense souvent qu'il faut faire de grandes choses pour peut-être changer quelque chose. Les trucs les plus faciles, style marcher 20-30 minutes, t'es sportif, t'es pas sportif, tu vas marcher 20-30 minutes, ça va déjà te rebooster et t'es reparti.
Ouais. Ouais, et en parlant de ça, justement, bah moi, c'est pareil. Parfois, quand j'ai des gros moments de down, en fait, ce que je fais, quand je suis super bien, en fait, c'est super facile pour moi d'aller à la salle de sport et de faire ma ouais, séance voilà. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de te dépenser. Mais justement, quand tu ne vas pas bien, que tu es un peu down, bah, tu n'as pas trop envie d'y aller. Et pourtant, il faut continuer à être dans la routine ouais. Et en fait, à avoir ces disciplines-là ouais. D'y aller. En fait.
Et ça, tu viens de le dire.
Et le fait d'avoir été, ça va te faire ouais. Mal. La première seconde, en fait, ce qui te fait le plus mal, c'est même pas d'aller à la salle, c'est juste de mettre tes chaussures et de mettre tes chaussettes, en fait. Ouais. C'est de passer de 0 à 1. Une fois que tu es passé de 0 à 1, après aller de 1 à 10, c'est super facile. En fait, et c'est vraiment le premier pas qui est le plus dur. Et quand tu as cette discipline là de pouvoir le faire, quand tu as fini ta séance, alors ou bien le lendemain, tu vas te dire, mais heureusement que je l'ai fait. Si j'étais resté chez moi dans mon canapé, occupé de manger des chips et regarder une série, et le lendemain, je me serais juste dégoûté, quoi. Ouais. C'est vraiment cette discipline là, quand tu arrives à l'avoir sur le long terme, l'effet cumulé aussi, c'est incroyable, quoi.
C'est la grande différence entre la motivation et la discipline,
ah, exact. Ouais.
Et beaucoup de personnes n'arrivent pas encore ou tout de suite à faire la différence entre motivation et discipline. Exact. Motivation, c'est quoi ? Ah, quand je me sens bien, ben, je vais le faire. Quand je ne me sens pas bien, je ne le fais pas. Mm-hmm. Ou ben, même si je ne me sens pas bien, je le fais quand même. Et ça, c'est la discipline. Et ouais. Ça, c'est une grande différence entre le mot motivation et le mot discipline.
Ouais. Mm-hmm. Ah, exactement. Et pour moi, la discipline vient plus t'apporter de la motivation sur le long terme que l'inverse, en fait. La motivation t'apporte de la discipline sur l'instant présent, mais quand t'es plus motivé, alors il n'y a plus de discipline. Voilà. Et en fait, il faut le prendre dans l'autre sens. Quand t'as ta discipline, c'est ça qui va continuer à te donner de la motivation sur le long terme, quoi. Ouais.
Et la discipline aussi fait quoi ? C'est que si à un moment, tu t'es dit, voilà, je suis discipliné de le faire tous les jours, une tâche dans ton business, par exemple, c'est pas parce que t'as raté un jour que ça change tout. Parce que tu sais que le lendemain, tu le reprends quand même.
Exactement,
ouais. Et ça peut arriver qu'il y a un jour où tu ne le fais pas pour X ou Y raison, mais parce que tu le fais tous les jours un petit peu où tu as pris cette habitude, c'est pas parce que tu as raté un jour que ça va changer énormément.
Ah, exactement. Voilà. C'est toujours une question d'équilibrage sur le long terme, en fait. Tu peux parfois, si tu fais du sport tous les jours, tu fais attention à ce que tu manges sur long terme et qu'il y a une fois où tu vas hyper mal manger, que tu vas avoir un gros pic, sur long terme, ça se ressentira même pas, en fait. Voilà. Et à l'inverse, si tu manges mal tout le temps, que tu fais pas de sport et qu'une fois tu vas être motivé, tu vas te dire je vais faire du sport pour maigrir, mais que tu as fait un jour de sport sur 30 jours, ben, ça se sentira pas non plus parce que ça va, entre guillemets, venir s'enfouir dans tes mauvaises habitudes. Ouais. Donc sur le long terme et dans l'équilibre, ça n'aura pas de balance. Et donc c'est vrai que c'est la discipline, c'est ça qui vient justement t'apporter beaucoup de poids justement dans ton équilibre de vie sur le long terme.
Moi, je compare ça souvent avec l'exemple de lire un livre. Tu veux lire un livre et tu veux le terminer, et tu te dis ok, chaque jour je lis 15 pages. Tu rates un jour, c'est pas grave parce que tu sais que le lendemain tu reprends tes 15 pages. Mm-hmm. Que de quelqu'un qui va dire, tu sais moi comment je lis un livre ? Hein, comment ? Ben, le vendredi à 14h, je me prends 3 heures pour avancer dans la lecture du livre. On arrive, il est vendredi, 14h, la personne prend son livre, boum, son téléphone sonne, urgence, il faut faire quelque chose. Ben, il n'a même pas lu une page. Que s'il lisait 15 pages par jour et qu'un jour, il se passe quelque chose, ce n'est pas grave parce que le lendemain, il continue.
Ouais.
C'est la même chose. En immobilier, c'est ça qui m'a vraiment aidé.
Okay, ouais.
Faire plein de choses.
Dans quel sens, du coup ?
Ben, moi, par exemple, je fais plein de petites tâches tous les jours. Et que si à un moment je rate une tâche, c'est pas grave parce que je sais que le lendemain je la continue.
Mmh. Okay,
ouais. Que quelqu'un qui va dire ben tiens moi tous les deux la recherche par exemple, je préfère chercher de l'immobilier 15-20 minutes par jour que de me bloquer un créneau une fois par semaine à telle heure. Le créneau il arrive et finalement il y a quelque chose d'autre qui doit être fait.
Ouais.
Et tu dis, moi, j'ai raté.
Ouais, surtout que c'est aussi, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile de faire une tâche 2 heures par semaine que de la faire 10 minutes tous les jours.
Parce que tu forces ton cerveau à essayer de faire quelque chose, peut-être qu'il ne veut même pas.
Exactement, ouais. Et moi, je l'avais vu, moi, la première fois que quelqu'un m'a dit ça, c'est quand je prenais des cours de solfège et de musique, quand j'avais 10 ans. Le prof m'avait dit, ton instrument, tu dois le travailler tous les jours 10 minutes, qu'il m'avait dit. Voilà. Ne fais pas 2 heures la veille avant de venir à ton cours de musique, tu dois le travailler tous les jours 10 minutes. Ouais. Parce qu'après, tu vas avoir l'habitude et après, ça va être un ancrage psychologique. Tu ne vas même plus penser que tu dois le faire, en fait. Ouais. Tu vas te réveiller, ça va être naturel qu'à cette heure-là, tu vas pratiquer d'un instrument ou faire autre chose. Ouais. Et donc, c'est vrai que les habitudes et les disciplines, c'est incroyable comme ça. En fait, c'est vraiment un game changer dans ta vie. Ça t'apporte tellement de résultats sur le long terme, c'est un truc de fou.
Ça me fait penser qu'il y a même des chiffres. Enfin, c'est la science. Si tu fais quelque chose pendant 21 jours, ça devient une habitude. Mm-hmm. Pour l'ancrer, il faut 30 jours. Et que ça devienne un mode de vie, c'est 90 jours. Mmh. Après 90 jours, tu ne te poses même plus la question et tu le fais automatiquement. Mais imagine que tu sais, par exemple, comment faire 1 million. Tu ne te poses même plus la question et tu le fais automatiquement. Boum, 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 boum. Et c'est ça dans tous les métiers où à un moment, tu te prends, comme on dit, les 10 000 heures. Dès que tu fais 10 000 heures dans quelque chose, ben là...
Ouais, à fond.
Ouais. On t'arrête plus.
Exactement, ouais. Mais du coup, ça me fait penser, toi, aujourd'hui, la vie de Yannick Allen, c'est quoi, en fait, une journée dans ta vie, en fait ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Est-ce que tu continues à faire de l'immobilier ? Est-ce que tu continues à chercher des biens ? Ou bien tu es plutôt parti vers d'autres projets aussi ? Je sais justement que tu coaches des personnes aussi avec des séminaires, parce que ça te tient à cœur, ça te fait vibrer, tout ça. Donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer, ouais, ta D'accord. vie quotidiennement, comment elle se passe, en fait ?
Ok. Donc, moi, je suis devenu papa, mon petit a 2 ans maintenant. Ça change une vie. L'immobilier, c'est très lié à l'argent. Ça, c'est des chiffres, c'est des banques. Et à un moment aussi, je l'ai fait pendant plus de 15 ans seul. Enfin, ou seul ou avec quelques associés. Mais à un moment, tu arrives à un stade, et je pense que c'est un peu pour tout le monde, tu as ta base. Enfin, la base, ça peut être 1 million, plusieurs millions. Mais à un moment, tu as une base et tu as envie de partager. Et aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un stade où ça me fait plaisir de partager et de pouvoir aider. Et au plus j'aide, au plus je me sens à l'aise. Enfin, à l'aise, ça me fait plaisir.
Ouais, ouais. Dire, tu te sens accompli, quoi.
Oui, accompli. Je vois les résultats. Si j'avais eu quelqu'un, il y a plus de 15-18 ans à côté de moi, qui pouvait me dire « fais ça, ne fais pas ça » ou « laisse tomber ça, il y aura quelque chose de meilleur après », j'aurais bien voulu avoir ça, mais ça n'existait pas à ce moment-là. Même là, tout à l'heure, je dis, même mon notaire ne me donnait pas l'info que j'aurais bien voulu avoir. Et aujourd'hui, je pense que le partage, pour moi, c'est quelque chose... Au plus j'aide, au plus je prends du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel.
Ouais.
Ouais.
Et je me demandais, toi, comment tu fais aujourd'hui après ? Ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier, du coup ? Ça fait
18.
18 ans ?
Presque 19, ouais, on va dire. Parce que chaque fois, je me dis, bah, tiens, le temps passe vite.
Ouais, ouais. Et comment ça se fait ? Enfin, moi, c'est une question que je me pose, parce que ça fait pas 18 ans que je suis dans mon domaine de professionnel. Comment, après 18 ans, en fait, tu ne te lasses pas de toujours parler briques, immobilier, notaire, compromis, alors, crédit ?
Il y a eu des moments. Il y a eu 2017, j'ai voulu tout arrêter. 2017, il y a eu un moment où, tu sais, parfois, même, tu te dis, bah tiens, pourquoi je le fais encore ? Enfin, tu sais, un moment, j'ai eu ce moment-là où je ne devais même pas me réveiller parce que je ne devais pas aller travailler. Tu vois, à un moment, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de se lever pour aller travailler parce qu'il y a une obligation. Mais imagine qu'il n'y a même plus l'obligation. Donc, à un moment, il y a eu ça. Il y a eu ce flottement. Il faut s'habituer. Après, c'est de se dire, ben, moi, je vais le faire, mais je vais continuer et prendre du plaisir. Changer certaines choses pour prendre du plaisir, voir avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux plus travailler, faire les choses différemment. Et ce que j'aime bien, en tant qu'entrepreneur, finalement, nos journées, elles sont toutes différentes. Et c'est ça que j'aime bien dans l'entrepreneuriat. C'est que chaque jour est différent. Je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je vais rencontrer des nouveaux dossiers. Et comment je faisais de l'immobilier il y a 15 ans à aujourd'hui, par exemple, ça change. Je sais que comment je fais de l'immobilier aujourd'hui et comment l'immobilier sera dans 6 mois, je suis sûr qu'il sera encore différent. Avec tout ce qui se passe, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, il y a plein de trucs qui vont changer, même en immobilier. Je suis là pour voir comment ça va se faire et comment s'adapter et être le premier dessus, par exemple. Tu vois, ça, c'est des choses comme ça que je regarde.
Moi, je voulais rebondir sur un truc que tu disais, c'était la sécurité. Tu as toujours la volonté, justement, de te sentir sécurisé.
Besoin de sécurité.
Besoin de sécurité.
Ouais. C'est un des besoins fondamentaux. Ouais. Il y en a 4. Hein. Besoin de sécurité, ça veut dire quelque chose qui est stable, où tu te sens à l'aise. Mais dès que tu as ça, et moi, c'est un peu ces deux extrêmes-là, tu as le besoin de sécurité et puis tu as le besoin de variété. C'est qu'à un moment, dès que tu es en sécurité ou que c'est stable, on s'ennuie et on a envie de faire des choses différemment. Donc moi, j'aime bien combiner finalement ces deux. Donc besoin de sécurité et besoin de variété. Troisième, c'est besoin d'être connecté, entouré, aimé. Puis tu as le besoin d'existence, de démontrer finalement qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie. Et puis tu as deux besoins qui sont un peu plus hauts, c'est le besoin de grandir et le besoin de contribuer. Et moi, c'est ça que j'adore. Continuer à grandir, c'est même pour ça que je reprends. J'ai encore signé un coaching à plus de 30 000 euros, moi, pour être coaché, parce que j'adore. Et le besoin de partager, j'adore. Et si je peux combiner les deux ensemble, bingo.
Ok, ouais. Et...
Mais c'est vrai que ce besoin de sécurité, c'est un état. Ça, j'ai appris. C'est que c'est un état et c'est l'état que tu dois checker par rapport à toi-même.
Ok, ouais. Parce que justement, moi, par rapport à la sécurité, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais trop ressenti, ce besoin-là. Je pense que c'est par rapport à mon caractère, tu vois. Et je me suis toujours dit, même si je perds tout demain, bah, je pense que je pourrais retomber, pas facilement sur mes pattes, mais en demandant de l'aide à quelqu'un, ou voilà, je sais, je pourrais facilement retrouver quelque chose à faire ou quoi. Peut-être que je me trompe totalement, et que si ça m'arrive, je serai au plus bas, mais c'est une croyance que moi, j'ai dans ma tête à moi, tu vois. Par contre, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, là, mon besoin de sécurité est devenu un peu plus grand, et en tout cas, il a commencé à exister pour moi dans ma tête, parce que je me suis rendu compte que bah, tout pouvait partir vite en couille du jour au lendemain dans ton pays. On peut voir la guerre aussi en Ukraine, etc. Ouais. C'est un peu le bordel. Et donc là, du coup, j'ai commencé à penser, à me dire, ok, aujourd'hui, je pense que je devrais assurer mes arrières pour pouvoir, en fait, pouvoir bouger très rapidement dans le monde si jamais il arrive quelque chose. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un plan en tête que je suis occupé de développer grâce à mon activité, c'est de me dire, ok, s'il y a une guerre en Belgique, demain, je peux partir dans le sud de l'Espagne parce que j'ai un bien là-bas. Si après, ça part aussi en cacahuète là-bas, je vais pouvoir partir, par exemple, j'en sais rien, aux Émirats parce que j'aurai mon appartement là-bas aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir cette vision-là, de me dire que j'ai plusieurs drapeaux, en fait, dans ma tête. Drapeaux, je sais pas, au niveau de plusieurs passeports, même différents, de plusieurs biens immobiliers. Donc moi, je vois vraiment cette sécurité-là comme ça. Est-ce que toi, tu vois seulement cette sécurité d'un point de vue financier en ayant un maximum de biens pour pouvoir être bien financièrement? Ou bien est-ce que tu vois aussi cette sécurité-là pour toi et ta famille, si jamais, tu vois, il y avait un problème dans le monde, et de pouvoir partir comme ça du jour au lendemain?
C'est une combinaison de plusieurs choses comme ça ensemble. La première chose pourquoi j'avais, par exemple, acheté en Espagne, c'était plus tard, Yannick, tu te vois où? Donc, tu travailles tous les jours pour quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu travailles? Et donc, moi, je m'étais dit, je me vois au soleil, quelque part dans le sud, à ce moment-là, toujours en Europe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter à l'étranger. C'est aussi, je me suis aussi dit, tiens, au lieu de tout avoir dans le même pays, c'est bien d'avoir plusieurs pays différents pour diversifier. Voilà. Il y a aussi l'aspect plaisir. Acheter quelque chose au soleil, ben, ça fait plaisir. Des choses comme ça. Je voulais rebondir, par exemple, sur la période Covid. Quand le Covid est arrivé, il y a eu deux réactions. Un, ah mince, oui, tout est bloqué, boum, stress. Trois jours plus tard, mais pourquoi tu stresses? Finalement, tu as tellement en immobilier que tu es cool. C'est mon immobilier, finalement, besoin de sécurité, qui était déjà là. Et c'est là aussi, à ce moment-là, j'ai fait, ok, je suis arrivé à un stade où, quoi qu'il peut arriver, je serai toujours rebondir. Et aussi le fait que, comme tu as dit, on se casse la gueule, on recommence des zéros, ok, mais on ira beaucoup plus vite parce qu'on sait les choses déjà qu'on ne savait pas avant. Et comment solutionner tous ces problèmes, on le sait déjà. Donc, même si on recommence de zéro, je pense qu'on ira même peut-être plus vite et peut-être même avec moins de freins, parce que comme on a déjà... Quand tu commences à zéro, tu n'as rien à perdre. Dès que tu cumules, tu as quand même des trucs que tu dis, ah bah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Tu vas peut-être moins facilement prendre de risques que si tu étais à zéro, quoi.
Mais oui, à zéro aujourd'hui, moi, j'ai un élève étudiant qui n'avait rien à perdre, et il a fait un de ses deals de dingue juste parce qu'il n'avait rien à perdre.
Ouais, c'est incroyable ça. Et toi, justement, aujourd'hui, bah, tu repartais à zéro. Ouais. Tu ferais quoi aujourd'hui? Maintenant, tu étais à zéro. Je pense que ce serait intéressant pour pas mal de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Si tu es vraiment à zéro sur ton compte et que tu veux, par exemple, te lancer dans l'immobilier, ce serait quoi vraiment le plan d'action en quelques étapes que tu ferais pour te relancer, quoi?
Ne pas avoir peur de faire la tâche une, c'est de se dire, ben, à un moment, ben, commencer de en bas, pour vite apprendre des meilleurs. Il faut aller chez les meilleurs. Tout de suite, tu vas chez le meilleur, tu gagnes. C'est peut-être plus cher d'aller chez le meilleur, mais au moins, tu vas gagner du temps, tu vas être bien entouré. Ça, c'est la chose que je ferai. C'est l'entourage. Donc, vraiment, aller chez le meilleur. Même être, ok, c'est peut-être un peu plus cher, mais tout de suite, être chez le numéro un ou le premier ou l'expert. Tu vois? Parce que moi aussi, à un moment, je disais, ouais, mais... Je préfère payer un petit peu moins, mais d'aller là, c'était au début. Aujourd'hui, maintenant, s'il faut, je paye cher pour être chez le meilleur, mais au moins, je sais que je vais gagner du temps. Parce qu'une fois que tu commences quelque part, l'argent, ça va toujours, ça vient, ça part et tout ça. Le temps, entre guillemets, c'est là où tu peux faire la différence. C'est de faire quelque chose très vite, rapide. L'argent, ça vient. Ça... Moi, tu sais, j'ai gagné mon premier gros million quand j'avais 27-28 ans. 2-3 ans après, il n'y avait plus rien, parce que je m'amusais. Et puis après, j'ai vu comment il fallait vite le refaire et cumuler et multiplier.
Ok, ouais.
Donc, tu vois, parce que faire de l'argent, c'est très facile. Aujourd'hui, si quelqu'un ne sait pas faire de l'argent, Alors, c'est question mindset. Mm-hmm. On est tous dans des pays riches. Donc, finalement, on peut arriver à faire et créer de l'argent très vite. Le plus difficile, je trouve aussi, après, c'est de voir ce qu'on va faire avec l'argent. Je pense que c'est plus difficile de voir ce qu'on va faire avec de l'argent que finalement gagner de l'argent. Mm-hmm. Gagner de l'argent, c'est facile. Mais après, c'est voir ce qu'on va faire avec.
Ouais, ouais. Ouais. Donc, pour revenir là-dessus, donc, ouais, tu dirais à quelqu'un donc, de commencer de zéro. Donc, c'est déjà générer du cash à moyen ou un autre en étant salarié ou en travaillant pour quelqu'un. Ensuite, d'investir ça dans de la connaissance, comme tu disais.
Tout de suite.
Ouais. Et alors, ensuite, une fois que tu as la connaissance, là, ça t'ouvre vraiment beaucoup plus de portes pour pouvoir commencer vraiment à mettre les mains dans le cambouis et à faire ton business, quoi. C'est
ouais,
ça.
Voilà. Okay. Et devenir entrepreneur aujourd'hui est beaucoup plus facile qu'avant, on va dire. Mm-hmm. Créer une société, ça va très vite. Mm-hmm. Créer une société, en deux jours, tu peux créer une société, et même presque dans n'importe quel pays. Moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi, c'est la première fois que j'ai voyagé seul.
Mmh, à fond, ouais.
Ça, c'est quelque chose. Apprendre à être seul, c'est quelque
ça
chose...
Ça fait énormément de bien, ça, voilà. C'est incroyable.
Moi, à un moment, j'allais même... peut-être que des gens vont dire, tiens, c'est bizarre ou quoi, mais aller au cinéma seul, déjà.
Mmh. Aller ça
prendre,
change tout.
Voilà. Aller prendre une place de cinéma pour un film que tu as envie de voir et que tu vas seul, mais déjà... À ce moment-là, j'étais un peu inconfortable. Mais ça m'a aidé à finalement grandir en disant, mais ça change quoi finalement ? Mm-hmm. Tu vois ? Mais aller seul à un cinéma,
un restaurant
aller seul
aussi.
Dans un restaurant,
ah ouais.
Aller dans un pays seul, eh ben, ça va te mettre des claques.
À fond.
Je trouve, même aller seul dans un cinéma, la première fois tu vas seul dans un cinéma, il y a des gens qui m'ont dit, comment ça se fait que tu vas seul dans un cinéma ? J'adore le film que j'ai envie d'aller voir. Finalement, est-ce que je dois, moi, m'adapter à quelqu'un d'autre si c'est aller ou pas ? Et c'est comme ça que ça a commencé aussi. Mmh. Aller au cinéma seul pour me mettre... Ouais, c'est pas normal. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas normal. Mais être entrepreneur, c'est souvent aussi être seul par moment. Mais en allant au cinéma seul, aller dans un restaurant seul, aller dans un pays seul, voyager quelque part seul, là, je peux... Ça pourrait aider tout le monde.
Ouais. Ouais. Mais c'est, en fait, je crois que c'est une grosse force en fait, de pouvoir justement rester seul. Parce que quand tu es seul, tu avances aussi beaucoup plus vite. Tu arrives à mieux réfléchir et à mieux te connaître aussi. Ouais. Et à savoir, OK, par exemple, moi, Lucas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, ça va être quoi l'élément déclencheur qui va faire que je vais devenir plus fort dans ce domaine-là, qui va me faire évoluer, qui va me faire avancer, etc. Que quand tu es tout le temps entouré, tu ne te poses pas spécialement ce genre de questions-là, c'est plutôt du feedback extérieur. Là, tu arrives à avoir un feedback extérieur, mais qui vient de toi-même aussi, en fait.
Ouais.
Et moi, j'ai eu des grosses claques aussi. Première fois que j'ai voyagé seul, j'étais au restaurant tout seul, hyper déstabilisant.
Ouais.
19 ans, tu es tout seul, tu as des familles autour de toi, ils regardent, mais ils se disent, mais c'est qui ce petit de 19 ans ses parents l'ont abandonné, c'est pas possible. Ouais. Et donc, tu commences à vivre au début à travers le regard des gens. Et en fait, après, avec l'habitude, en fait, tu occultes tout ce qui est autour de toi, tu fais juste ton truc tout seul. Et en fait, moi, je kiffe trop, quoi. Après, je dis pas que je pourrais le faire pendant 3 mois d'affilée.
Non, mais ça ne pose plus de problème.
Voilà, pendant 2 semaines ou quoi, c'est incroyable, quoi. Franchement, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous regardent, qui ont jamais ou qui nous écoutent, qui n'ont jamais eu l'expérience de faire ça tout seul. D'ailleurs, justement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est franchement passer par ce moment-là où tu es seul, c'est méga important aussi. Quoi. Ça peut vraiment tout changer. Si tu fais ça pendant, moi, je dirais 2 mois, ça peut changer le restant de ta vie, en fait.
Bah oui, parce qu'après, il n'y a plus rien qui t'arrête.
Mm-hmm.
Parce que tu sais aussi, tu te dis souvent, oui, mais commencer de zéro. Je pense que c'est plus difficile pour certains d'être seul que de ne plus rien avoir.
Ouais.
Parce que finalement, ne rien avoir, finalement, ça n'existe pas non plus. Tu sais, tu as des amis pour t'aider, tu as la famille pour t'aider. Mais aller quelque part seul, je pense que c'est quelque chose de plus extrême.
Ouais, ouais.
Et que tu peux aussi faire l'expérience tout de suite.
Mm-hmm.
Pour celles et ceux qui nous regardent ici et qui disent « Ah bah tiens, je ne l'ai jamais fait », aller au cinéma seul ou aller dans un restaurant seul, ça ne coûte rien du tout.
Mm-hmm.
Et ils peuvent le faire tout de suite et le tester. Et même peut-être après dire, tiens, j'ai eu ça m'a, cette réaction-là, j'ai eu, ça m'a fait ça. C'est quelque chose que tu peux faire tout de suite.
Ouais, ouais. À fond.
Même aller à un séminaire seul.
Mm-hmm.
Tu vois ?
Ouais. Ouais, ça doit être une des plus belles expériences, je crois, que tu peux avoir. Parce que derrière, et même le fait de voyager seul, ça te pousse encore plus à t'ouvrir aux gens, à discuter aux gens, donc à sortir de ta zone de confort aussi. Que si tu vas avec quelqu'un, tu vas parler seulement, tu vas avoir une interaction sociale avec lui. Et comme tu es avec lui... ou elle, tu vas te dire, je ne vais pas spécialement aller parler aux autres. Alors que quand tu es tout seul, ça t'ouvre encore plus. Et le fait d'avoir fait ça, après faire des bêtes trucs qui avant te semblaient compliqués, te paraissent en fait super simples à faire. Quoi. Parce que tu es sorti toujours de ta zone de confort et tout ça. Et
c'est là où il y a aussi des belles rencontres.
Mm-hmm. À fond,
c'est comme tu es seul, parfois tu dois commencer à essayer de parler avec quelqu'un que tu n'aurais pas fait si tu étais en groupe.
Mm-hmm.
Et c'est là alors où tu comprends certaines choses. C'est une belle claque,
ouais,
ou un déclic, je dirais.
À fond, à fond. Et moi, une question que je me pose sur toi, c'est donc 18 ans dans l'immobilier, donc tu as encore des biens pour le moment.
Oui.
Tu as eu des biens, tu les as vendus, mais en tout, il y a combien de biens qui sont passés dans tes mains en fait ? Est-ce que tu te souviens de. Est-ce que tu saurais dire le chiffre ou pas ?
Je crois qu'on est proche des 700.
Ah ouais ?
700 Funaise. Entre. Oui.
Alors, vraiment, donc qui sont passés dans tes mains, donc que tu as soit.
Où j'étais propriétaire et où j'ai revendu. Je crois même plus, mais parce que ça me fait penser à. Ça fait quand même maintenant 2-3 ans que je donne du coaching et on a dû adapter le slide. Au début du coaching, quand j'ai commencé avec autant d'unités, comme tu dis, faites, et aujourd'hui, on a dû mettre 150 de plus.
Ah ouais.
Ouais.
Incroyable.
Juste pour être juste et correct dans les chiffres, tu vois.
Ah ouais, c'est ça,
j'aurais pu laisser le slide il y a 2 ans et dire voilà, c'est autant et c'est qui est déjà un beau chiffre, mais il y avait encore plus. Et donc à un moment, j'ai dit ouais, mais il faut l'adapter si on veut être correct dans les slides.
Mmh. Ouais.
Donc voilà.
Et pour justement avoir 700 biens qui passent entre tes mains. Est-ce que tu as besoin, comment ça se passe en fait ? Moi je me pose la question au niveau d'une équipe, est-ce que tu as une grosse équipe derrière toi qui travaille pour toi ?
Avant j'avais une grosse équipe, mais alors grosse équipe est égale frais fixes élevés, et donc finalement tu travailles pour payer tes frais fixes, ou bien tu, de nouveau tu cherches cet équilibre, plus petite l'équipe, je sous-traite plus qu'avant. La sous-traitance pour l'instant est quelque chose de très facile à faire, même pour celles et ceux qui veulent commencer. Sous-traiter, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un de ton équipe, mais qui n'est pas dans, sur le payroll de ta société.
Mmh.
Et donc, s'il fait le travail, ben, tu le payes pour le travail qui a été fourni. Mais c'est pas avant, j'avais une. On était arrivé à plus de 20 employés à un moment, salaire fixe. Mais donc, il faut travailler pour que ça tourne.
Donc là, ça te coûtait combien par mois ? Tu étais à.
Près des 300 000 ?
Ah ouais, ouais.
Mmh. Fixe, hein ?
Mmh.
Ouais.
Ouais, c'est énorme quoi.
Aujourd'hui, j'ai transformé tout ça et finalement, je me sens c'est plus de flexibilité,
plus
de temps et plus d'opportunités alors.
Ouais.
Ça, c'est vraiment la différence.
Ouais. Et donc aujourd'hui, ton équipe, elle est constituée uniquement de freelance, quoi, si je comprends bien, c'est ça ?
J'ai 2 personnes encore avec moi et tout le reste, c'est du freelance.
Ok, ouais.
Mais je pourrais presque te dire que c'est du. Les freelances, entre guillemets, ils font partie de mon équipe à 400%. Même
ouais,
encore plus parce que finalement ils sont leur propre patron, donc ils ont une certaine flexibilité et donc ça les motive aussi. Donc ouais, il y a un win-win.
Ouais, je comprends. Ouais. Et toi, dans les prochaines années, comment tu vois la chose ? C'est quoi ton objectif ? C'est continuer à faire de l'immobilier à fond, à générer de l'argent avec ça. Parce que bon, à un moment, voilà, quand tu as l'argent, on avait discuté aussi, tu sais ce que c'est bien, ça te permet de continuer à vivre, etc. Mais il y a un moment, c'est quoi justement, bon, tu m'avais parlé de ça justement, du plan à 5 ans.
Oui, les plans.
C'est quoi là, tes prochains objectifs qui vont arriver là du coup ?
Alors, je suis en train d'acheter une maison à l'étranger avec l'idée de pouvoir combiner plus habiter à l'étranger et pouvoir revenir. Donc vraiment un mix entre les deux. Je viens aussi de racheter des médias.
Ouais.
Donc, quelque chose que j'ai acheté vraiment. Enfin, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais la transaction a été tellement vite que je l'ai fait comme un achat-revente immobilier.
Ok, ouais.
Donc, maintenant, ben, y a un truc où j'aurai plusieurs médias et le groupe va devenir. J'ai presque plus aujourd'hui d'employés dans mon groupe média que dans mon IMO. Mais c'est juste que j'avais envie d'avoir quelque chose en plus, de différent. Donc, ça s'est fait il y a 2 mois. On planifie, j'aime bien planifier des choses, mais j'aime bien aussi laisser surprises de la vie qui peuvent arriver. Demain, on me dit, tiens, il y a telle ou telle chose qui pourrait être bien, ben, je vais la regarder. Ouais. Donc ça, quoi d'autre ? Continuer le coaching, j'aime bien. Donc vraiment aider les gens et voir le résultat chez les gens, j'adore.
Ouais. Et tu parlais justement des médias. Quand on s'était vu, tu m'avais dit justement, si on peut en parler, que tu avais mis donc ta femme justement,
oui,
pour, que c'était ta femme qui allait gérer ce pôle-là.
Oui.
Et moi, c'est une question que je me suis toujours posée, comment allier en fait justement couple et business en même temps en fait, tu vois. Comment est-ce que toi tu t'es dit, je vais travailler avec ma femme en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas, parce que parfois c'est pas la personne adéquate, mais ils ne se rendent pas compte. Ou parfois pas simplement parce que la personne n'est pas faite pour ça. Comment est-ce que toi tu arrives à gérer ça en fait ?
Bon, ici, je suis sûr qu'elle est faite pour ça. Ça se voit. Je pourrais même dire que finalement, Moi, je le sais, mais elle ne le sait pas encore. Mmh. Parce qu'elle est salariée, elle a pris l'habitude d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Mmh. Mais tu vois bien que quand tu as le mindset, tu as les caractéristiques, les envies, moi, je le vois déjà avant elle. Je la fais confiance à 400% et je lui laisse la liberté. C'est elle qui va décider, c'est elle qui va... Donc, il y a la confiance et la liberté de pouvoir faire gérer ça par elle. Et puis... un peu comme moi, hein. On tente, ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, on a tenté, ou on va l'améliorer. Donc voilà, c'est un peu la même chose, et puis faire confiance.
Ouais, c'est une question de feeling surtout, quoi, je feeling, pense. Hein. De sentir la chose ou pas, en fait.
Oui, feeling, confiance, un moment de se dire, elle fait partie de la team, de ma team, et on s'entraide.
Ouais.
Je pense que, et ça m'a aidé fortement, je pense, de Grant Cardone. Mm-hmm. Quand je vois tout ce qu'il fait en famille et comment il le fait... Si c'est le faire, on sait tous le faire.
Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai que souvent, moi j'entends souvent autour de moi, ouais, jamais mélanger justement ton business avec ta femme, par exemple, donc tu gardes vraiment les deux séparés. Mais c'est vrai que du coup, tu as toujours une grosse différence, comme si qu'il y avait deux vies différentes, ouais. Tu vois, qui vivaient en même temps. Quand tu travailles, comme tu dis, en équipe et que tu arrives à le faire, ouais. Je crois que ça doit être top aussi en fait.
Oui, et aussi, je pense que tu vois, tu travailles énormément, tu as un lifestyle que tu as envie. Mais je pense que tu as aussi envie de le partager avec les gens que tu aimes.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, tu peux pas non plus dire... Tu
peux pas avoir ces souvenirs-là dans ta tête tout seul à la fin de ta vie, quoi.
Oui, ou te dire, moi j'ai ça, les autres l'ont pas. Non, c'est d'arriver à un même niveau et même pouvoir dire, ça fait plaisir pour les deux. Mm-hmm. Donc oui.
Ouais, c'est ça, ok, ouais.
Quelque chose quand même que j'ai vu plusieurs fois où je me suis dit, c'est pas normal que certaines personnes aient ce niveau de vie-là. Mais que dès qu'il y a quelque chose, ça devient une discussion d'argent. À un moment, non, c'est normal.
Mm-hmm. Ouais, d'office. Et tu parles de lifestyle. Je vais rebondir justement sur ce que tu avais dit. Tu avais eu 8 voitures en un moment, donc c'était ici en Belgique. Moi, je me demande, c'est quoi en fait la réaction des gens autour de toi quand tu as commencé à gagner de l'argent? Peut-être que tu as commencé un petit peu à flamber aussi, parce qu'on passe tous par là. Comment tu as vécu la chose? Parce qu'on est quand même, il faut le dire, dans un pays où l'argent est mal vu pour 90% des gens. Donc, comment tu as vécu ça?
Quelque chose que je vois souvent, et même chez mes élèves, quand tu commences petit, quand tu restes petit, tout le monde a envie de t'aider. Mmh. Ah, t'as vu, il essaye, il est petit, on va l'aider, tout ça, ça tu vois. Mais une fois que tu deviens un grand, tu gagnes bien ta vie, alors là, ça devient un souci. Mmh. Mais la même personne petite, on va essayer de t'aider, on va dire tiens, voilà, nanana. Mais dès que ça devient grand, que ça prend de l'ampleur ou que tu réussis très bien, là, ça devient un problème. Mmh. Et je pense que c'est lié au... Les gens n'aiment pas le changement. Mmh. Tu vois?
Ouais. Et toi du coup, ça a été difficile à certains moments de te dire, ouais, je suis un petit peu un des seuls, peut-être autour de mes potes ou je sais pas, de tes connaissances, tu vois, à avoir beaucoup d'argent, on va dire, tu vois. T'as eu des problèmes comme ça ou pas du tout
Oui et non. Ce qui veut dire, c'est qu'à un moment, tu fais une sélection où ça se fait naturellement. Il y a des gens que tu vas encore continuer à voir, d'autres moins. J'ai des amis qui ont super bien réussi leur vie. Ça, c'est bien. Et ceux-là, on continue à les voir. Mais il n'y a pas que l'argent, ça peut être réussite argent, mais ça peut aussi être réussite familiale, réussite dans une carrière. Tu vas bien voir qu'il y aura des feelings. Mm-hmm. Et d'autres avec qui tu dis à un moment, et c'est ça que moi j'ai vu à un moment, c'est de se dire, j'avais beaucoup d'amis au début, que finalement je voyais les soirs et les week-ends, mais si on se voyait la journée, on ne savait pas quoi se dire. Mm-hmm. Mais le soir, pour sortir, on s'éclatait, le week-end aussi, mais si je devais voir cette personne-là en semaine, dans la journée, on voyait bien que ce n'était pas le même feeling. Mmh. Et ça, j'ai quand même remarqué assez rapidement, en me disant, lui oui, lui non. Et à un moment, quand j'ai fait un gros nettoyage, c'est là où j'ai gagné énormément aussi.
Ok, ouais. Ok. Et donc, toi, ton enfance, ça s'est passé comment, pour un petit peu mieux comprendre? C'est une question que j'aime bien poser, à l'école, etc. Tu étais comment, toi, je veux dire, comme élève, plutôt perturbateur, bon élève
Alors là, ça va peut-être être contre tous ceux qu'on entend parfois sur Instagram et des trucs comme ça, mais moi, j'ai fait l'UNIF. J'ai adoré l'UNIF. J'étais premier de classe. La seule chose, c'est que... Donc moi, je suis francophone, mais j'ai fait toutes mes études en néerlandais.
Ah ouais.
Donc je trouvais que j'étais un petit peu la personne différente et qu'il fallait que je fasse toutes les choses à ce moment-là parfait. Comme ça, on m'ennuie pas. Je suis premier de classe, c'est bon, on me dit rien. Tu vois. Et bon, c'était du travail aussi. Mais moi, j'ai adoré l'UNIF. J'ai adoré aller à l'école parce que je savais que j'allais voir mes potes et tout ça. J'ai deux masters.
Ok, ouais.
Donc voilà, donc deux masters, mais en même temps, c'était mon besoin de apprendre, grandir, tout ça. Mm-hmm. Peut-être que on n'avait pas tellement sur les réseaux, donc moi finalement, j'allais chercher autre part. C'était ouais, peut-être ouais. à ce moment-là l'UNIF. Uh-huh. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent.
Exact.
Mais moi, j'ai aimé l'UNIF, et si vous avez la chance de le faire, faites-le. Mm-hmm. Il y a peut-être des personnes qui pleurent, qui voudraient le faire et qui n'y arrivent pas. Et nous, on est dans un pays riche où on va presque dire l'éducation est gratuite.
Ouais, à fond, ouais.
Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est et, clair, ça, ouais. et ça m'a aidé. La seule chose que je ne savais pas à 18 ans, c'était à 18 ans, ouais. Un moment à l'université, j'ai dû choisir une direction. Et là, j'ai eu très difficile parce que je ne voulais pas choisir une direction parce que ça allait peut-être me mettre dans une case. Mm-hmm.
Donc moi, ça fermait d'autres portes aussi. Quoi.
Voilà. Et donc, moi, la seule chose, comment j'ai pris ma décision, c'est, par exemple, j'ai pris comptabilité, fiscalité. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, c'est quelque chose que je vais pouvoir prendre avec moi toute ma vie. Mm-hmm. Mais ça ne va pas me mettre dans une case. Et donc, finalement, j'ai fait compta, fiscalité. Ça ne m'a pas mis dans une case, mais aujourd'hui, ça m'aide pour mes sociétés, par exemple.
À fond, ouais, ouais.
Ou dans mes business. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, je me rappelle que, et je sais même encore où j'étais, hein, j'étais en Italie, en Toscane, autour d'une piscine, et il me restait encore 30 minutes parce que je devais cocher une case, parce qu'il y avait un timing à respecter, et je ne savais vraiment pas. J'hésitais entre marketing et compta fisca, et finalement, comme j'avais beaucoup de personnes qui faisaient la marketing, je me suis dit, fais compta fiscalité pour toi. Mm-hmm. D'abord pour toi, ça va t'aider dans la vie, et finalement, aujourd'hui, ouais, ça m'aide ouais. dans la comptabilité, la fiscalité.
Ouais, c'est intéressant, ouais, toi, puis voilà. ça va t'aider à
mais
vie,
j'ai eu
quoi,
plus
ça,
difficile ouais. à faire ce choix-là que tout le reste.
Ok, ouais. Ouais. Ouais, ouais, pas mal. Et tu parlais justement que tu avais fait ton premier million vers, je sais plus, 27-28 ans, quelque chose comme ça, mais qu'il avait été vite dépensé.
Mais net. Donc, parce voilà, que souvent, net. On dit aussi, ouais, ouais. Je croise des gens, oui, mais en immobilier, j'ai autant. Je fais, oui, mais si tu enlèves tous tes crédits, mm-hmm. t'es pas ça,
ouais,
finalement.
Ouais, c'est ça, non,
ouais,
je comprends,
c'est vrai,
net.
T'as raison. Mais vraiment, net, oui. Bon, après, il est parti vite. Pourquoi ? J'ai réinvesti énormément dans des trucs.
Ok.
Je me suis fait plaisir.
Ouais.
Et à un moment aussi, c'est là où je t'ai dit, gagner de l'argent en Europe, c'est très facile. Après, il faut voir ce qu'on fait avec. Ouais. Et je pense que c'est là où il y a un manque d'éducation aussi.
Mm-hmm. Et justement, ce million-là, moi, c'est ouais. là-dessus que je voulais rebondir. Quand tu dis voilà, que tu l'as investi, tu l'as aussi beaucoup dépensé parce que mm-hmm. voilà, il n'y a pas, peut-être pas la bonne gestion financière d'un point de vue mental que tu avais au début. Mm-hmm. Que tu l'as dépensé dans quoi, en fait ? Juste par curiosité, j'aime bien savoir ce genre de trucs-là.
Les sorties ? Les voyages, faire plaisir aux autres. Donc, j'aime bien faire plaisir aux autres. Mais finalement, bah, comme tu as dit à tout à l'heure, tiens, le lifestyle, si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de le partager, bah, alors tu le partages avec tes amis. Mais finalement, au lieu de le payer pour une personne, tu le payes pour 5 ou 10 personnes. Mm-hmm. Parce que moi, c'était ça. J'avais envie de faire plaisir, j'avais envie de faire telle expérience avec mes amis, avec ma famille. Bah, oui, à un moment, bah,
ouais.
mais je ne regrette rien. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses que... canon.
Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, l'avantage de l'argent, c'est que ça peut acheter des expériences. L'argent, du coup, tu l'as perdu. L'expérience, tu l'as gagné. Mais l'argent,
l'expérience,
tu... l'expérience, tu vas ouais. pouvoir la gagner qu'une fois parce que tu ne peux pas la dupliquer. Ouais. Tandis que l'argent, tu pourras le refaire à vie, en fait, une fois que tu as la connaissance.
Voilà.
Donc, finalement, c'est... moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'argent perdu. Ouais. Même si, par exemple, tu vas, je ne sais pas, ouais. partir en voyage ou même payer assez cher, etc. Ouais. Telle expérience, l'argent, bah, une fois que tu as la compétence, tu peux le refaire en infini parce que c'est illimité en
oui.
fait l'argent.
Et ne pas être le plus riche du cimetière, comme on dit.
À fond,
parce ouais. que c'est bien d'avoir de l'argent sur un compte, mais si tu fais rien avec, ça ne sert à rien non plus. Donc à un moment, expérience, ouais, et moi ce que j'adore combiner par exemple, c'est voyager et en même temps m'éduquer. Mm-hmm. Donc ouais, par exemple, un séminaire plus à l'étranger et je combine
ouais,
les deux ensemble.
Ça. Ouais,
donc,
pas mal, ouais.
Voilà.
Moi, je suis un petit peu dans le même délire que toi. À chaque fois que je voyage, par exemple, si je vais louer un truc, je vais toujours me dire il faut que je le rentabilise, quoi, tu vois. Ouais. Par exemple, ben là, je pars à Dubaï et je me suis fait plaisir. J'ai loué franchement un super bel appartement, tu vois, qui a coûté assez cher. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si c'est pour me rassurer que je me dis ça, mais je me suis dit, OK, j'ai un beau cadre. Là, je vais bosser déjà comme un chien. Je vais être dans un bon environnement avec une belle salle de sport, piscine, etc. Donc, je vais pouvoir faire ma routine ouais. comme d'habitude. Mais surtout, je vais en profiter pour tourner full vidéo ouais. justement pour ma chaîne YouTube, voilà. pour TikTok, pour Instagram. Et je sais que bah, tout ça peut être vite rentabilisé, tu vois, par les vidéos que je vais faire et tout ouais. ça. Mais surtout, ouais.
mais là,
dans ma
par
tête,
exemple, tu es en train de te sécuriser. C'est ça un ouais. peu le besoin de sécurité
exactement,
aussi, mais
ouais.
il est différent pour toute personne.
T'as raison, ouais.
Moi, je te dirais par rapport à ça, fais pas attention, mais regarde la réaction. Ça va être la réaction qui va être le plus important pour toi pour après. Donc, il y a un événement, mm-hmm. c'est j'ai pris cet appartement luxueux, ça, c'est l'événement. Et puis, il y a la signification que tu vas y donner. Et c'est le résultat que tu vas avoir. Et après, tu regardes, par exemple, quelle signification tu y donnes et quel résultat tu vas en sortir. Mmh. Ça, c'est une formule que tu peux employer partout.
Ouais.
Parce qu'on n'a pas 100% le contrôle sur l'événement, mais on a toujours le contrôle sur la signification qu'on peut y donner. Mmh. Et puis, tu as un résultat positif ou négatif.
Ouais, c'est ça, exact.
Mais c'est, toi qui, c'est toi-même qui le choisis.
Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu as raison. Et c'est comme tu dis, en fait, le sentiment de sécurité, il est là en fait, pour tout le monde. Il est juste là à différents niveaux.
Niveau différent.
Et la perspective que tu vas donner aux choses. Quoi. Donc, ouais, c'était ça que je m'étais dit. Mais à chaque fois, pareil, je ne vais jamais dépenser quelque chose où je vais me dire, c'est dépensé, ça ne servira vraiment à rien, à part juste avoir dépensé de l'argent. C'est toujours... pour une expérience, pour rentabiliser aussi quelque chose derrière. Et encore une fois, comme je dis, voilà, là, comme tu disais, on ne peut pas être le plus riche du cimetière. Et c'est malheureux qu'il y a des gens encore aujourd'hui dans leur business qui fonctionnent de cette manière-là et qui pensent qu'en fait, accumuler le plus d'argent, c'est ça qui va leur permettre peut-être, je ne sais pas, au dernier jugement, de pouvoir aller, j'en sais rien, au paradis.
Alors que ce qu'on dit souvent, c'est que l'argent...
Alors que ça n'a rien à voir. Quoi.
L'argent amplifie ce que tu es déjà.
Exact, ouais.
Ça ne change pas une personne, ça l'amplifie. Mm-hmm. Si tu es quelqu'un qui au début aime bien partager, avec plus d'argent, tu vas partager beaucoup plus. Mm-hmm. Si tu es quelqu'un qui est dans l'empathie, avec plus d'argent, tu vas être plus dans l'empathie. Si tu es un connard, avec plus d'argent, tu es un plus gros connard.
À fond, ouais.
Voilà, enfin, je résume ça.
Non, mais c'est vrai.
Voilà, ouais. Mais c'est un peu ça.
Pour revenir à un moment dont je t'ai parlé au début de la vidéo, c'était quand je te parlais des moments un peu plus down, etc. Ouais. On avait parlé du Covid. Je t'avais posé la question justement à Marbella, mais c'est intéressant que tu la partages ici. Toi, le Covid, comment vraiment tu as fait pour gérer ça, cette période-là, dans l'immobilier? Parce que j'imagine que le Covid, tu as dû faire face à plusieurs problèmes. Est-ce que tu peux quand même parler de ces problèmes-là et comment tu as réussi justement à les solutionner et à passer au-delà de ces problèmes-là, en fait?
Mais moi, ce qui est fou, c'est que quand le Covid a commencé, moi, j'étais aux States. J'étais dans un séminaire de Grant Cardone. On était 50 000 personnes pendant 3 jours et demi, donc boosté à mort. Et à un moment, je regarde mon téléphone et je vois, ça a commencé par un article. C'était « Venise annule son carnaval ». Et donc là, je me suis dit « Venise qui annule son carnaval, qui est du business, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Parce que Venise ne va pas annuler un business. Ah ouais. C'est de l'argent. Mmh. C'est ce qui fait vivre les personnes. Et donc, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui commence. Et moi, j'étais à Las Vegas à ce moment-là. Le temps de revenir de Las Vegas vers Bruxelles, mais via Paris, on avait déjà bien vu que le Covid était là, parce qu'à Paris, on nous faisait déjà des screens et tout. On voyait qu'il y avait un truc qui commençait. Mm-hmm. Je suis rentré 2 jours avant le 17 mars qui allait. Le 17 mars en Belgique, c'est à ce moment-là où ils ont commencé à tout fermer. Mm-hmm. C'était le 17 mars 2020. Moi, je revenais des States. J'étais boosté à 400% pour aller tout éclater, business, tout. Enfin, voilà. Et on nous met en disant, mais maintenant, tu vas rester à la maison. Et j'étais là, déjà ça. Ne rien faire, pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, moi, c'était déjà tout cet électrochoc de waouh, je reviens boosté, je ne peux rien faire. Et un des exercices dans des séminaires, souvent, on nous dit, qu'est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, ton business, il ferme pendant 6 mois? C'est un exercice souvent qu'on nous demande de visionner.
Ah,
de
se dire,
qu'est-ce qu'il faut. Mais là, on l'a eu en réel, pendant même plus que 6 mois. Je crois que ça a duré 1 an et demi, finalement. Mmh. Et donc, en immobilier, on ne pouvait plus faire de visite, on ne pouvait plus aller chez le notaire et on ne pouvait plus rien faire. Voilà. Parce que finalement, l'immobilier, c'est un business de contact. Donc, plus aller chez les locataires, plus de visites. Les agents immobiliers ne pouvaient plus faire de visite et il n'y avait plus d'actes. Donc, je pouvais même les choses qui étaient vendues sur papier, je n'ai pas pu les signer et avoir l'argent qui rentre à ce moment-là. Et c'est là où, au fur et à mesure, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching. Enfin, ce n'était même pas du coaching. C'était, je commençais à faire des lives sur Instagram, sur Facebook, juste pour partager, pour être occupé. Et puis, hop, ça a pris. C'est comme ça que ça a commencé. Et je ne regrette pas parce que finalement, c'est le Covid qui a poussé le truc que je voulais faire depuis un moment. Mais je me dis tout le temps, je vais le faire plus tard. Et là, le Covid a fait que j'ai dû le faire tout de suite en bien. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 3 ans.
Ouais.
Ouais. Et je combine vraiment business immo plus le partage immobilier via des coachings. Et j'adore. Ouais. Et le résultat.
Ouais.
Moi, je suis sûr que quand toi, tes élèves, ils ont du résultat positif, t'es hyper content. Mm-hmm. Tu te dis, tiens, voilà.
Ouais.
Un, ça fonctionne. Ce que j'ai promis fonctionne. et je le vois et ça peut changer leur vie et leur vie, leur entourage. Ils peuvent peut-être faire ce voyage qu'ils rêvent de faire depuis 10 ans. Ils peuvent peut-être s'acheter telle ou telle chose qu'ils rêvent depuis X années. Moi, c'est ça. Ouais.
À fond.
Moi, je me revois encore. J'étais dans ma petite chambre, seul, en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et souvent, quand j'ai un élève, je sais d'où il commence et finalement vers où je peux l'amener. Et même si après, c'est peut-être pas l'IMO, bah, avec le mindset.
Ah, tu lui as donné d'office, tu lui as ouvert des portes.
Avec le mindset, endroits, ouais. Avec le mindset, il peut dire écoute, c'est peut-être pas l'IMO, mais moi, j'ai envie de faire ça depuis des années et boum.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, ouais. C'est top. Et souvent, c'est pas vraiment. Comment expliquer? C'est même pas un coach, c'est plutôt ouais, quelqu'un qui va venir débroussailler le chemin pour que la personne ait une vision plus longue, en fait, et qu'il puisse plutôt pouvoir mieux se projeter, savoir où il va aller, etc. Qu'au début, c'est très difficile de savoir justement par où tu vas commencer, qu'est-ce que tu vas faire, mais le fait d'avoir quelqu'un qui te parle, qui te donne des conseils par rapport à ce que lui, il a déjà traversé, ça vaut tout l'or du monde, quoi, en fait. Ça change tout dans le parcours d'une personne, quoi.
Oui, dans certains de mes élèves m'appellent oncle Yannick. Juste pour dire, ben voilà, t'es l'oncle qui donne les petits trucs qu'il faut faire ou pas.
Ouais.
Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais, d'office. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je prends du recul, c'est vrai que quand je vois tous les gens qui réussissent, tous les gens réussissent à chaque fois, soit parce qu'ils ont eu un déclic au niveau du mindset, soit parce qu'une personne leur a donné une stratégie, soit parce que, je sais pas, ils ont eu un gros boost de motivation en assistant à un événement, etc. Mais je me dis, aujourd'hui, quand je vois tous les gens qui ont réussi autour de moi, je pense que il y a peut-être personne, je pense, c'est impossible de réussir si tu restes vraiment tout seul et que tu te fermes à tout, en fait. Si tu n'es en contact avec aucun autre humain, que tu n'as pas les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est pratiquement impossible.
Encore plus aujourd'hui.
Impossible de réussir, en fait. Tu es obligé d'avoir des informations qui viennent de l'extérieur pour pouvoir te faire changer ton paradigme, etc. Et pour pouvoir avancer. Sinon, c'est... Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça doit être beaucoup plus difficile de réussir, quoi. Parce que tu n'as même pas... Ouais, je sais pas comment te l'expliquer, mais tu n'as même pas, en fait, cette fin de réussir, vu que tu ne sais pas non plus qu'est-ce que ça peut donner comme sensation, vu que tu ne vois pas les autres le faire, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui. Moi, j'ai toujours commencé par la première étape, c'est de te mettre en action, et puis les autres étapes viendront après. Et comme tu dis, il faut le faire avec des gens, et même quand tu dis seul, on n'y arrive pas, mais t'as pas besoin de X associés ou X personnes dans ta boîte, mais je veux dire, même aller par exemple à un séminaire, un mastermind ou quelque chose comme ça, c'est déjà aussi être avec d'autres personnes pour aller plus loin. Ou t'es pas obligé, parce qu'avant la vieille école, c'était surtout, il faut que ce soit des employés dans ta société. Aujourd'hui, le mot freelance est de plus en plus, et je pense même que on va aller dans une société où être salarié n'existera peut-être même plus. Avant, c'était salaire, sécurité. Aujourd'hui, ma maman, par exemple, elle a travaillé pendant plus de 40 ans dans la même boîte.
Ouais,
aujourd'hui, pose la question, ça n'existe plus.
Ouais, et donc, même les patrons d'entreprise ne veulent plus engager de salariés.
Et même le patron, tu n'es même pas sûr que le patron reste 3 ans.
C'est ça, ouais.
Moi, j'ai eu plein de patrons. Quand j'étais employé, le patron changeait tous les 2-3 ans. Tu n'as pas un patron qui va rester 20 ans. Donc, même eux pensent à eux avant. Et puis tu les vois changer.
Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est vrai que moi, des salariés, je me suis toujours dit, j'en prendrai plus jamais. J'en ai eu quelques-uns, mais j'en prendrai plus parce que mauvaises expériences, etc. Et puis tu es dans des pays aussi, les salariés sont tellement protégés que c'est tellement plus flexible avec des freelances. Et vu que nous, on vit dans un monde, et surtout, on est des entrepreneurs qui agissons vite. Et donc, avoir des freelances, c'est égal à flexibilité, c'est égal à vitesse, à rapidité. Que quand tu as des salariés, tout est très lent, c'est les papiers. Tu veux mettre un salarié dehors, ça prend une éternité. Et ouais, c'est pas fait pour des boîtes qui veulent aller vite, en fait. Ouais. C'est beaucoup plus facile de travailler sur un modèle avec des freelances pour aller vite et pour atteindre tes objectifs plus rapidement.
J'ai toujours,
il
faut rester le petit bateau sportif que le gros paquebot. Parce qu'un paquebot, finalement, quand il doit changer de direction,
ça prend
du temps. Mais dès que tu es le petit bateau juste à côté et il faut aller à gauche ou à droite, ben tu peux t'adapter.
Exact. Ouais. Exactement, ouais. Et pour un petit peu clôturer ce podcast, ça fait, je ne sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire 1h30, je pense, plus ou moins, qu'on est déjà occupé de parler, ça passe vite. Je me demandais, toi, tu as investi dans l'immobilier au départ en Belgique, puis après tu es parti sur la Costa del Sol à Marbella, d'ailleurs là-bas, donc on s'est rencontrés pour le rappeler, pour une petite parenthèse. Pourquoi Marbella, en fait? Parce que tu aurais très bien pu investir au Portugal, en Italie.
J'ai voulu investir en Thaïlande.
Ouais.
Ça s'est pas fait. Bon, là, j'ai perdu mon acompte, mais je préfère avoir perdu mon acompte finalement qu'un plus gros montant. Parce que bon, les règles sont différentes, tu n'es pas propriétaire du terrain, enfin, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a la tendance Bali. Moi, je dirais, faut faire attention aux tendances. Parce qu'il y a quelques années, tout le monde voulait acheter en Turquie et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va acheter en Turquie. Pourquoi Marbella, par exemple? C'est que ça reste l'Europe. C'est pas cher.
À
Je veux
fond.
dire, tu sais, tu as envie d'aller dans un resto, bien manger, tu payes presque parfois 2 fois moins cher qu'en Belgique ou qu'en France.
Et même
Le cadre de
l'immobilier
vie,
aussi, par rapport à la
l'immobilier,
Belgique, ouais, il est
ouais,
pas.
l'immobilier, voilà. Mais moi, c'était surtout pas trop loin aussi de la famille. Un vol, c'est 2 heures et demie, peut-être parfois un peu 3 heures, mais 2 heures et demie en moyenne. Mais en 2 heures et demie, pas trop cher, tu peux faire des allers-retours. Donc, si à un moment il faut vite aller quelque part pour signer un document, ben, je peux retourner vite faire signer un document. Je suis pas trop loin de ma famille parce que la famille reste quand même quelque chose de très très important. Le soleil, le cadre de vie aussi. Et ce qui est fou, c'est que en allant au soleil, je travaille plus que finalement être quelque part où il fait pas
Ouais,
beau.
pareil.
Tu pourrais dire, tiens, je m'enferme quelque part, mais
Ouais.
là-bas, c'est un tout. Tout te booste finalement.
C'est même pas en fait le nombre d'heures de travail, parce que moi parfois aussi je m'enferme ici dans mes bureaux, tu vois. Je travaille pendant un mois, donc je travaille énormément. Et parfois le fait d'aller au soleil, je peux peut-être travailler moins, mais avoir des idées qui vont rendre les choses beaucoup plus productives et qui vont les faire avancer plus vite que de passer 8 heures ici derrière mon ordinateur
Ouais, mais
à tapoter sur mon
tu
clavier, quoi, tu
passes pas
vois.
de 1 à 2, mais tu passes de 1 à 8 en
Ah, c'est
une
ça en
fois.
fait,
Ouais,
ouais. C'est
ouais.
vraiment c'est un effet comme exponentiel directement que tu changes d'environnement et que l'environnement te convient.
Ouais.
C'est même plus le nombre d'heures de travail, mais c'est vraiment comment tu vas faire avancer la barque en activant des petits effets de levier que ici tu n'aurais même pas vu en fait, en restant justement dans un environnement plus sombre, etc., si ça peut impacter ton humeur, quoi. Et donc Barbella, voilà pour le bon temps, etc. Et donc tu as
Ouais.
commencé à investir dans l'immobilier là-bas.
Il y a plus de 10 ans maintenant.
Plus de 10 ans, donc
Et
est-ce
je
que
suis
tu...
tombé par hasard, je connaissais même pas Marbella.
Ok.
Avant, je regardais dans le sud de la France et j'ai commencé à visiter un petit peu dans le sud de la France, mais les prix sont bon, plus chers en
Ouais, d'office.
France. On montrait des trucs un peu plus petits qu'il fallait rénover. Et donc, moi, j'étais un peu là, mince, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis j'ai pris hop, un journal. Il y avait un article sur un agent immobilier qui cartonne à Marbella, Malaga. Et 2 semaines après, j'étais seul avec mon petit sac à dos dans un hôtel une étoile, juste pour voir c'était quoi. Et j'ai adoré. Et avant de prendre ma décision, je me suis dit, je vais retourner une deuxième fois pour voir si j'aime autant que la première fois. Parce que souvent, quand on va quelque part en vacances, la première fois, c'est génial. Puis tu dis, oh, c'était tellement bien, j'y retourne une deuxième fois. Et la deuxième fois n'est plus aussi bien que la première fois. Mais chaque fois que je retournais vers Marbella, c'était encore mieux. C'était encore bien. Je voulais rester plus, tu vois. Et donc ça, c'était un signe qui disait, OK, là, je veux bien
Ouais.
investir.
Ok, ouais. Et donc, tu as commencé à investir il y a 10 ans. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer, je sais pas, combien de biens du coup tu as eu? Est-ce que tu fais aussi de l'achat-revente là-bas ou c'est plutôt location?
Là, c'est plutôt patrimoine pour garder pour soi.
Ok.
C'était pas l'idée, mais finalement, le cumul se fait automatiquement. Enfin, c'est quelque chose que, à un moment, une fois que tu sais comment il faut faire, bah, tu le multiplies. Et ouais, les chiffres montent très vite aussi en Espagne, quand je veux dire question patrimoine. Ouais, j'ai pas donné des montants parce que voilà, mais c'est grand et ça devient de plus en plus facile.
Ouais.
Ouais.
Ok. Et du coup, là, c'est peut-être intéressant pour les gens, mais comment tu fais justement pour acheter des biens là-bas en Espagne? Est-ce que tu t'aides aussi des effets de levier justement bancaire belge, des effets de levier bancaire espagnol? C'est toujours intéressant, tu vois,
Ouais,
de...
très bonne question. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en Espagne, on peut avoir des crédits sur place et on peut aussi avoir du crédit en Belgique s'il faut. Donc, tu peux demander aux deux en même temps, regarder un petit peu qui est plus facile à donner du crédit à ce moment-là. Parce que le crédit, c'est aussi un moment de timing. À un moment, la banque veut donner du crédit, elle va t'en donner parce qu'elle est obligée, c'est dans les objectifs de la banque. À un moment, ils ont donné peut-être trop de crédit, bah, ils vont un peu fermer les robinets. Et donc, il y a même des moments de l'année où il faut plus aller voir un banquier qu'un
OK,
de
ouais.
pas. En immobilier à Marbella, ce qui est chouette, c'est que tu peux déjà trouver des biens pas trop chers de standing. Donc, tu ne dois pas non plus tout le temps taper des millions d'euros d'immobilier. Ouais. Je crois qu'il y a déjà des trucs à partir de 120, 150 000 euros qui sont grandioses avec piscine. Et commencer aussi petit et puis accumuler. Mmh. Ouais, ça, c'est quelque chose. Okay, et ouais. Alors aussi, ce qu'on dit souvent, tiens, Yannick, comment tu as eu ton crédit ou comment tu t'es fait financer? Ben, j'ai ouvert la porte. Enfin, je veux dire, tu ouvres une porte. Il y a combien de personnes vont déjà ne pas ouvrir la porte ou pousser la porte pour rentrer?
Bien, ils vont se dire, ouais, mais là-bas, ça parle espagnol. Comment est-ce que je fais pour acheter un bien dans une langue que je ne connais pas? Ben, tu prends un avocat qui va faire office de traducteur aussi.
Oui, et... mais surtout, on va dire que le point le plus délicat, c'est souvent le financement. Mais combien de personnes vont déjà ne pas pousser la porte pour rentrer et poser la question? Il y en a 80%.
Ouais, même plus.
Enfin, voilà, ouais. Mais ne vont même pas dire. Mais, la dernière fois, c'était marrant. Il y a quelqu'un qui pose la question à un de mes élèves. Ouais, mais comment tu as eu le crédit? Ben, j'ai poussé la porte, je suis rentré, je l'ai eu. Hein? Simple réponse. Mais combien de personnes ne vont déjà pas pousser cette porte?
Ouais, ouais, mais à fond. Et en fait, c'est comme ça dans le business de manière générale. À chaque fois, les gens posent des questions en mode mais comment tu as fait pour générer, par exemple, telle somme d'argent, obtenir tel truc? Comme si, en fait, tu allais leur dire, bah, en fait, tu sais, là-bas, il y a une porte, et en gros, il y a vraiment un papier, et dans ce papier, il écrit une recette vraiment magique que personne ne connaît. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Y a pas, en fait, dans le business, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. C'est juste, en fait, de l'audace et le fait, comme tu dis, d'ouvrir les portes, c'est l'image.
Moi, c'est l'image de faire les trucs. Pour moi, c'est le prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi? C'est l'effort à fournir pour y arriver. Quand on a un objectif, il y a un prix à payer. Ce n'est pas de l'argent, c'est quel effort je dois faire pour y arriver. Voilà. Aujourd'hui, avec les réseaux aussi, il y en a beaucoup qui voudraient le faire, qui ne le font pas. Et finalement, ils vont écrire une petite phrase négative juste parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne veulent pas rentrer dans telle chose ou y croire. Mais ça fonctionne.
Ouais, exact, exact.
Et ça fonctionne pour ceux qui passent à l'action.
À fond, ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment en fait le passage à l'action. Même si tu vas te planter 10 fois, tu t'en fous, tu vas apprendre 10 fois, tu vas ouvrir d'autres portes sur ton passage qui vont te donner d'autres opportunités. Donc, c'est vraiment le passage à l'action et vraiment le fait d'avoir un mindset positif qui va te faire justement réussir. Et c'est pas la recette miracle parce que tu peux avoir, encore une fois, tu peux avoir le meilleur talent du monde, mais quelqu'un qui a zéro discipline. À côté de quelqu'un qui a la meilleure discipline du monde et le moins bon talent du monde, bah, c'est le gars avec le plus de discipline et qui va mettre en place des actions tous les jours, qui performera mieux sur le long terme que la personne avec du talent qui a la meilleure stratégie.
Mais moi, je compare ça tout le temps avec... je préfère quelqu'un qui... Il a lu un livre une fois, il l'a compris plus ou moins, mais il passe à l'action, que quelqu'un qui vient chez moi, et ça, j'ai des spécialistes. Ouais, Yannick, j'ai lu pendant 10 ans tous les livres dessus, je connais tout par cœur. Et alors, tu fais quoi avec? Ah, ben rien. Bah, ouais, ok, ça sert pas à grand chose finalement.
Ouais, d'office, ouais, c'est clair. Non, je te rejoins là-dessus, quoi. Mais pour terminer ce podcast qui était très agréable, d'ailleurs, on pourra en faire d'autres dans le futur pour reparler
avec
même d'autres,
plaisir,
d'autres sujets,
même
etc.
Au soleil.
Exactement, ouais, au soleil aussi. Moi, comme je dis toujours, c'est toujours moi qui commence mes podcasts pour introduire la personne, expliquer comment on s'est rencontré, etc. Donc, moi, je laisse toujours mon invité terminer le podcast. D'accord. Et ensuite, moi, je ne dirai plus rien. Donc, je te laisse terminer maintenant ce podcast-ci avec ce que tu veux, soit un conseil pour ceux qui veulent commencer, soit une phrase de motivation, une citation, peu importe, tu termines le podcast comme tu veux. Je te laisse la parole et maintenant, c'est toi qui termine là-dessus.
Ok, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, la première chose à faire, c'est passer à l'action. Passer à l'action, même une petite étape, on en a parlé là tout à l'heure, aller seul dans un restaurant, aller seul au cinéma, aller seul dans un pays, c'est peut-être quelque chose qui est très facile pour certains, peut-être moins facile pour d'autres, mais faites-le juste pour voir quel effet ça va vous faire et ça va vous faire grandir. Ici, moi, je suis spécialisé dans l'immobilier, vous êtes dans d'autres secteurs peut-être, mais il y a plein de choses qui sont similaires. L'entourage est très important. Continuez à apprendre, continuez à rester curieux. Curieux, c'est vraiment de se dire, bah, tiens, quand on me dit quelque chose ou que je reçois une info, bah, au lieu de seulement dire, oui, je le sais déjà, bah, peut-être se dire, ok, je le sais déjà, mais je ne fais rien avec, peut-être que je devrais faire quelque chose avec. En citation, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, moi, c'est une phrase qui est simple, mais c'est « rien ne bat l'action ». Rien ne bat l'action, donc passe à l'action, fais quelque chose et ça va faire la différence. Si c'est peut-être pas tout de suite, ça va le faire peut-être dans 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et alors quelque chose aussi que je dis souvent à mes élèves, c'est on surestime 1 an et on sous-estime 5 ou 10 ans. Ça veut dire que quand on va se mettre des objectifs, on va se dire, ouais, j'ai envie de faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et tu te mets tellement de choses en une fois que sur un an, bah, tu vas faire rien du tout. Puis les 5-10 ans vont passer et tu vas dire, waouh, j'ai eu 5 ou 10 ans même pour faire ce que je souhaitais faire et je n'ai même pas fait la première étape. Donc ça, c'est quelque chose. Ne sous-estimez pas ce que vous savez faire sur 5-10 ans, mais faites attention de ne pas surestimer sur un an. Voilà. Parce que c'est là où on se met alors la pression et on reste bloqué. Donc, faites première étape, tu fais la première étape et tu ne penses même pas à l'étape 6, 7, 8 parce que tu dois d'abord faire 1, 2 et puis le reste suivra.